Voilà, je vais peut-être quand même enlever mon masque. Je peux ?
Oui.
C'est plus facile pour comprendre. Je vais me garder un peu loin. Voilà. Alors, ce n'est pas mon habitude, mais pour pouvoir vous faire une synthèse des trois premiers cours et amener le quatrième, je vais lire un papier. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je me suis dit, si je commence à parler comme ça, on va perdre un peu de temps. Donc, voilà. Pour vous resituer un petit peu, le cours numéro 4 par rapport aux autres. Alors, à chaque fois, toutes les semaines, je le faisais un petit peu rapidement, mais là, j'ai essayé de noter un peu plus précisément. Donc, dans le cours 1 du père Jean-Henri Pérès, nous avons vu comment, même dans un contexte culturel de profonde déchristianisation, dans lequel l'agnosticisme et l'athéisme gagnent en proportion, une certaine soif spirituelle demeure, qui s'exprime d'une manière profondément humaine et naturelle dans la permanence de la nécessité des rites qui délimitent aussi des espaces sacrés, puisque nous allons parler d'espace, j'insiste sur cette expression. Par exemple, nous disait le père Jean-Henri, avec un exemple tout simple, on n'entre pas chez quelqu'un sans sonner ou frapper et dire bonjour. Ce rite de politesse délimite un espace mis à part qui est marqué d'un sens particulier. On comprend, ici c'est chez moi, et c'est, ou alors c'est pas chez vous. Voilà. Dans cette société toujours imprégnée de rituels, les chrétiens sont invités à exprimer sans complexe ce qui fait sens pour eux. On va beaucoup parler de sens et de signification, dans leur manière de vivre et de prier. C'est le cœur du témoignage et de l'évangélisation. La dimension transcendante de l'homme qui se lie dans les rites donne sens à la vie sociale et la structure. Elle crée la culture qui permet aux hommes de vivre ensemble. Cette dimension sociétale nous a été explicitée par l'anthropologie biblique que nous a présentée le père de Rouec en notre deuxième séance. L'homme est un être de relation. Il est créé à l'image de Dieu Trinité, qui est une communion de personnes. Il est un être vivant capable de donner la vie et qui se trouve lui-même dans le don sincère de lui-même. Alors c'est une expression qui est tirée d'une définition de l'homme que donne le texte de Gaudium et Spes au chapitre 24, donc une constitution du Concile Vatican II qui donne cette définition de l'homme, le don sincère de lui-même. Donc en l'homme sont unies les natures matérielles et spirituelles par le corps qui exprime et permet la relation. Comme le corps, alors là c'est moi qui rajoute un petit peu, mais le père de Rouec l'avait évoqué très rapidement, comme le corps, partie visible de la personne qui dit beaucoup plus que son apparence et révèle sa dimension spirituelle, les arts ont pour fonction de dire des vérités conceptuelles en les rendant visibles. De même en liturgie, nous a expliqué Emmanuel Auvray, dans notre séance 3, chaque objet, chaque geste dit une réalité invisible par un signe visible qui passe donc par les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, et le corps entier est sollicité dans des gestes, des mouvements, l'écoute, la parole. Le but de l'action liturgique est de faire prendre conscience de la présence agissante de Dieu, de se laisser toucher par elle. Cette présence agissante se joue dans une vraie rencontre rendue possible et manifestée par le rituel. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment l'aménagement des églises participe à cette manifestation du mystère, comment le but de cet aménagement est de porter, de prolonger la pleine conscience de ce qui est vécu dans la liturgie en l'inscrivant dans la matière, les formes et les images par le biais du langage symbolique. Alors, symbole. Pour expliquer peut-être un petit peu ce mot-là avant de commencer. Un symbole, c'est ce qui permet d'unir visuellement un signe et un sens pour composer un langage plus immédiat que la parole elle-même, qui est discursive. On fait un discours pour expliquer quelque chose. Un symbole va nous faire une synthèse, nous donner une synthèse qui va être accessible à la fois par nos sens, parce que ça va être visuel, ou ça va être auditif, ou ça va être de l'odeur, et en même temps, va faire une référence à une idée. Voilà. Et donc, l'étymologie, la racine étymologique du mot symbole, dans symbole, il y a sim, S-Y-M, qui veut dire ensemble. Par opposition à dia, qui veut dire diviser. Donc, diabolos, le diable, c'est l'inverse du symbole. Le symbole, c'est ce qui réunit, le diable, c'est ce qui divise. On pourrait dire ça comme ça. Alors, à l'origine, effectivement, un symbole, C'est un tesson de poterie, donc à l'origine, ça veut dire dans les temps antiques. Le symbole est un objet en poterie, donc ça pouvait être une poterie par exemple. Quand on faisait un contrat entre deux personnes, on cassait la poterie, ça fait une cassure irrégulière et chacun a la marque, ça fait comme un pulse qui rentre dans la partie gardée par la partie adverse et ça devient le signe visible d'un contrat qui pouvait être oral. Ouais, voilà. Donc comment un objet visuel peut être le signe de quelque chose d'invisible. Voilà, alors nous allons commencer par quelques exercices, vous allez voir. Alors, j'ai essayé de décomposer ça en deux parties. Donc vous allez voir que j'ai repris beaucoup d'images que j'ai montrées déjà dans les cours de l'année 1. Mais c'est pas grave, ça va les remettre un petit peu, parce que c'est vrai que l'année 1, on allait quand même très très vite. C'était la course. Là, je me sens un peu plus tranquille. On pourra s'arrêter à l'heure, même si je n'ai pas fini, ce n'est pas grave. Voilà, on va faire ça un peu plus tranquillement. Alors, j'ai quand même essayé de faire deux parties un peu distinctes pour que vous ayez des repères. Dans notre première partie, on va essayer de voir comment un symbole peut avoir différents niveaux de lecture. Ça permet de mettre de l'ordre, vous voyez, puis de décrire les choses. Ces niveaux de lecture, vous allez voir qu'ils sont assez poreux. On peut passer de l'un à l'autre. L'exercice n'est pas de les identifier à tout prix. Ce sont des définitions que je fais moi pour me repérer, mais ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Voilà, différents niveaux de lecture du langage symbolique. Alors, le langage symbolique des formes. Alors, on va parler des formes en général, des formes des espaces liturgiques, c'est-à-dire les lieux où on célèbre. Donc, on va parler d'architecture. Je ne vais pas parler beaucoup d'objets. On aurait pu aussi. Je vais surtout parler d'espace liturgique, puisqu'on s'intéresse aux églises dans notre parcours. Voilà. Alors, on va donner un exemple, le baptistère. Donc, ceux qui me connaissent savent très bien que c'est quand même ma marotte. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on dévidera des éléments du vocabulaire symbolique présent dans les églises pour que vous puissiez apprendre le langage et le parler, et le décrypter, et le comprendre, et être à l'aise avec un certain nombre de symboles qu'on trouve dans les églises. Voilà. Alors, différents niveaux de lecture du langage symbolique. Alors, il y en a un. Alors, j'ai mis des petites pastilles de couleurs. Voilà, le niveau 1, alors c'est du plus simple au plus complexe, on va dire. Le niveau 1, il est très immédiat. Une forme dans un espace liturgique, que ce soit une architecture, un objet ou un meuble, il a une fonction rituelle. S'il est dans l'église, c'est parce qu'il sert pour célébrer un sacrement. Donc il va servir dans un rite. Donc il a une fonction. Donc il est là pour favoriser le rite. Donc on est très incarné. Vous voyez, on va revoir dans les symboles la question de l'unité du corps qui a des impératifs physiques et matériels, et puis l'esprit qui va lui chercher à comprendre du sens et à donner du sens. Donc là, je suis au niveau très basique, physique. Voilà, j'ai besoin de faire un geste liturgique, et ben je vais utiliser tel espace que je vais aménager de telle manière pour que ce soit pratique. Voilà. Et puis, après, j'ai avoir un deuxième niveau. C'est qu'en fait, ce que je vais célébrer dans cet espace-là, que j'ai aménagé pour être fonctionnel, eh bien, ce que je vais célébrer, c'est un sacrement. Dans un sacrement, vous savez qu'il y a des gestes. Il y a un geste, une parole, une matière. Et donc, le geste, la parole et la matière vont dire ce qui se passe là, ce que Dieu fait effectivement à travers ce geste, cette parole et cette matière. Et donc forcément, l'espace qui va accueillir la célébration de ce rite va vouloir dire ce que signifient ces paroles, ce geste et cette matière. Donc ça va informer la forme. Voilà. Et puis il y aura un troisième niveau, parce que forcément les sacrements ont leur origine dans l'action du Christ, donc dans les évangiles, le Christ accomplissant les Écritures, donc il y a aussi des sources bibliques de l'Ancien Testament, et nous allons fonctionner dans le langage symbolique un petit peu comme la Lectio Divina. D'ailleurs, les trois étapes, là, c'est un petit peu les trois étapes de la Lectio Divina. Vous connaissez tous la Lectio Divina, une manière de méditer à la parole de Dieu, On lit un texte et on commence par imaginer ce qui s'est passé matériellement, physiquement. Ça va être notre niveau 1, d'une certaine manière. Voilà, Jésus a fait ça, il a dit ça, il y avait un tel, il était dans tel contexte. Voilà. Et donc, j'entre déjà dans le texte. Et puis après, je vais essayer de dire dans la Lectio Divina, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça dit, et puis après, qu'est-ce que ça me dit à moi, le but étant que, à la fin, j'incarne ce que j'ai compris. Vous voyez, là, je parle encore du corps quand je dis j'incarne. C'est-à-dire, ce que j'ai compris dans ma lecture biblique, ça doit me nourrir et transformer ma vie. Et bien dans un sacrement ou dans un langage symbolique, on va avoir la même chose. On va faire... Alors, aussi, un autre élément là que je voudrais dire, c'est quand on fait de la Lectio Divina, à force de fréquenter les textes bibliques, vous avez sûrement remarqué que la Bible fonctionne par citation. C'est-à-dire que tel geste de Jésus me fait penser à autre chose. Et donc, je circule dans la parole de Dieu comme ça, et les éléments finissent par faire écho. En langage symbolique, c'est la même chose. On va construire notre langage par comparaison et parce que quelque chose nous fait penser à autre chose. Et c'est l'interprétation. On a le droit, en christianisme, d'interpréter les textes. On doit interpréter les textes. On doit les lire, on doit les comprendre, on doit les assimiler, on doit les mâcher, les manger pour qu'ils nous nourrissent vraiment et qu'ils s'incarnent en nous. Et donc c'est l'interprétation. Là, on ne fait pas n'importe quelle interprétation, n'importe comment. On l'a fait en Église, on cherche à être conforme dans notre lecture au credo, évidemment. Voilà. Mais on peut interpréter. C'est-à-dire que ce que je vois, si je transpose dans mon langage symbolique, ce que je vais voir dans l'Église, si ça me parle comme ça, j'ai le droit. Même si l'artiste n'a pas voulu dire ça. Vous savez, dans l'art, on dit ça, mais vous faites beaucoup de commentaires, mais est-ce que l'artiste a voulu dire ça? C'est pas grave, ça, si vous voyez ça. Voilà, vous voyez, on est, parce qu'on fait de l'interprétation, parce que ça nous parle et que ça fait écho en nous. Et donc ça va être le troisième niveau, que j'ai appelé un symbolisme mystique. Enfin, vous verrez, avec les exemples, ce sera toujours tout de suite plus simple. Alors, on va commencer avec ce petit exercice-là. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Cher.
Alors, pourquoi? Alors, on va commencer par les choses très matérielles. On va décrire matériellement. Qu'est-ce qu'on voit?
Un
escalier. Donc, on va monter. Voilà. Vous voyez, la fonction matérielle. Voilà. On va monter. Et après, qu'est-ce qu'on fait dans cette chose-là, à votre avis?
On prêche.
Voilà. Vous sentez que c'est pour parler. Alors, vous dites une chair. Parce que ça ressemble, ouais. Vous voyez, les correspondances, ça ressemble, vous fonctionnez par citation, par référence à ce que vous connaissez déjà, ça ressemble à une chair. Sauf que c'est pas tout à fait pareil. Alors si on avait le temps, on ferait toute une historique, un historique de lambon, et puis vous verriez par comparaison pourquoi c'est différent, etc. C'est un lambon paléo-chrétien. C'est-à-dire que c'est de là qu'on proclamait la parole de Dieu. Alors, si je fais cette précision, c'est parce que la chair ne servait que pour les homélies, pas pour proclamer la parole. Ça a la même forme, mais ça n'a pas tout à fait la même fonction, parce qu'on n'est pas à la même époque. Et donc il faut aussi replacer dans les contextes historiques pour interpréter correctement. Voilà. Mais c'est quand même pas mal, ça a au moins la fonction de dire une parole. Voilà. Alors, c'est un ambon, effectivement. Alors ça s'appelle ambon, ça vient du grec anabaino, qui veut dire monter. Donc effectivement, il y a des marches. C'est fait pour être vu et entendu. Si on est en hauteur, tout le monde nous entend bien. Si on doit proclamer une parole, quand il n'y avait pas de micro... Hein, c'était quand même mieux d'être en hauteur. Voilà, donc ça, une fonction, vous voyez qu'il a une forme, cet ambon, parce qu'il a une fonction et un but très matériel et pratique. Mais ce but matériel et pratique correspond à un rite. C'est le rite de proclamer la parole de Dieu. Et donc on va favoriser, par cet ambon, la proclamation de la parole de Dieu, qui est le rite de l'écoute de la parole. Voilà. Alors, si je vais au niveau 2, ma deuxième petite pastille... Je vais dire que si c'est la parole de Dieu, vous savez que dans le rite, on dit, pardon, parole du Seigneur, hein, à la fin, voilà, quand on chante l'Alléluia avant de proclamer l'Évangile, pour bien dire que c'est la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même qui se donne dans sa parole. Nous avons aussi une petite chose là. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là ?
On met un cierge ?
Oui. C'est le candélabre pour le cierge pascal. C'est le candélabre pour le cierge pascal. Alors, j'ai trouvé, ça moi ça me fait penser, vous voyez, monter comme ça me fait penser à Matthieu 5:1. Voyant la foule, Jésus monta D'ailleurs, dans l'évangile, en grec, c'est bien anabainou, c'était le même mot qui est utilisé. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc on imagine Jésus qui a besoin d'être en hauteur aussi pour se faire entendre. Mais après, vous voyez bien que cette disposition physique et pratique, elle devient symbolique du Christ enseignant. On parle du discours sur la montagne, les béatitudes. Et quand Fra Angelico, j'aurais pu vous mettre l'image, mais quand Fra Angelico représente le Christ prêchant, il le met sur une montagne. Voilà. Donc, notre embon où on monte, voyez, je commence à me dire, ah ben oui, c'est comme Jésus qui monte sur la montagne. Et ça commence à me donner, à faire écho. Hein. Alors, après, si je vais encore plus loin, je vais dire, ben oui, Dieu parle toujours du haut d'une montagne. Quand il rencontre Moïse, voilà, le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Et puis, le candélabre du cierge pascal, alors, on met le cierge pascal à l'embon pendant le temps pascal. Encore actuellement, hein, on met le cierge pascal à l'embon de Pâques à la Pentecôte. Et après, on l'emmène au baptistère. Et donc, pourquoi le candélabre ici ? Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Voilà, ça me fait penser à ça, moi. Et puis en même temps, le cierge pascal, c'est le Christ ressuscité. Donc c'est aussi comme l'encens dont nous a parlé Emmanuel Auvray la dernière fois. Le cierge pascal à cet endroit-là, il est là pour dire la parole que nous écoutons, c'est le Christ. L'encens, c'est pour dire c'est Dieu qui est présent, c'est la parole de Dieu. On encense l'embon parce que c'est la parole de Dieu. On met le candélabre parce que ce qui va être lu là, c'est le Christ lui-même qui se donne. Vous voyez, c'est tout simple, mais à partir de cet aménagement-là, j'ai déjà dit plein de choses sur le statut de la parole de Dieu. Alors en plus, l'embon est béni. Ça n'est pas un mobilier comme un autre. Il est vraiment symbolique. Tout à l'heure, quand on parlera du cœur, je vous montrerai quels sont, dans l'aménagement d'un cœur, les meubles qui sont symboliques, mais au sens fort, c'est-à-dire qui manifestent vraiment la présence du Christ, et que du coup, on laisse dans le cœur en permanence, qu'on ne range pas la sacristie, comme le pupitre de l'animateur, qui lui n'est que fonctionnel. Voilà. Alors voilà nos trois niveaux, un peu explicités à partir de l'exemple de l'embon. Alors on va faire notre petit parcours autour des baptistères à partir de cette image-là, qui n'est pas très sexy, cette image, mais elle a l'avantage d'être très simple et très basique. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est marqué. Oui, j'aurais pas dû, j'aurais dû l'enlever. Voilà, alors, c'est quelque chose qu'on a fouillé. Vous voyez, c'est une fouille, c'est pour ça que c'est pas très joli. C'est un petit peu désordre tout autour. C'est le trottoir autour de la cathédrale de Nantes qui a été fouillé et on a découvert dans le sol cette chose-là. Alors, bon, maintenant vous savez que c'est un baptistère, mais on va faire le même exercice qu'avec l'embon. On va décrire, pour essayer de... L'archéologue qui tombe là-dessus, qui n'a jamais vu de baptistère avant, qu'est-ce qu'il se dit ?
Une piscine,
on descend, voilà. Il y a un creux, donc on va remplir avec quelque chose, et puis ben, voilà, ça ressemble à une baignoire. Hein, voilà. Voilà, une piscine, effectivement. Donc c'est une cuve, hein, c'est une cuve, donc c'est mon niveau 1, voilà. Ça ressemble à une cuve dans laquelle on va descendre pour se baigner. Bon, très bien. Alors, voilà, descendre, être plongé. Alors, pourquoi être plongé ? Parce que le rituel nous dit, alors le rituel contemporain, hein, actuellement, ça c'est le rituel du baptême des petits-enfants, donc qui date d'après le Concile Vatican II, nous dit au numéro 22, on peut légitimement employer soit le rite de l'immersion, qui signifie plus clairement la participation à la mort et à la résurrection du Christ, soit le rite de l'ablution. L'ablution, c'est juste verser de l'eau. Voilà. Alors, à l'époque des fouilles, du niveau qu'on a fouillé à la cathédrale de Nantes, on est au IVe siècle. On baptise quasi exclusivement par immersion, parce qu'on baptise des personnes adultes. Alors ça, c'est les historiens qui nous apprennent ça, parce que le sacrement de réconciliation n'était pas encore parfaitement fixé. Et, Et le seul moyen d'être pardonné de ses péchés, c'était d'être baptisé. Et donc, on se faisait baptiser le plus tard possible, pour avoir le moins de péchés possible sur la conscience entre le moment où on est baptisé et la mort. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après, on a institué le sacrement de réconciliation, parce que sinon, c'était pas, quand même pas vivable. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut légitimement employer soit le rite de l'immersion, qui signifie plus clairement, soit le rite de l'ablution. Vous voyez que déjà, dans un rituel, Emmanuel Auvray nous l'avait expliqué, il y a des choix possibles. Je peux faire ça, mais je peux aussi faire ça, du moment que le sens est préservé. Mais les gestes vont avoir quand même des sens un peu différents. Si je me suis baptisé par immersion, vous imaginez que je vais vivre quelque chose d'un peu différent si je suis baptisé en recevant quelques gouttes d'eau sur la tête. Voilà, ça va pas faire vivre la même chose et ça va être. Il y en a un qui va être plus symbolique au sens péjoratif. Je verse quelques gouttes d'eau. Mais ça peut aussi, bon, je ne vais pas faire toute la question du baptême, mais verser de l'eau, ça peut aussi vouloir dire que l'eau est vivante, c'est de l'eau vive. D'ailleurs, il y a des baptistères qui sont en forme de fontaine. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, sinon il faudrait faire une séance uniquement sur les baptistères. Voilà. Alors, le rite de l'immersion. Alors, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est, vous voyez, que le rituel lui-même dit qui signifie plus clairement. Donc, le rituel lui-même nous invite à voir derrière les gestes et les façons de faire des significations. Et là, c'est plus clairement. Donc, c'est intéressant, hein, il y a des symboles qui vont être plus recherchés, il y a des aménagements qui vont signifier plus clairement, et puis des aménagements qui vont être plus pauvres symboliquement. Voilà. Alors, la participation à la mort et à la résurrection du Christ. Donc, on nous dit qu'être immergé, ça veut dire que ça montre que le baptême nous fait participer à la mort et à la résurrection du Christ. Alors, effectivement, Jésus lui-même est plongé dans le Jourdain. Il montre la voie, il se fait baptiser lui-même par Jean-Baptiste. Un baptême de conversion. Et je vous ai mis l'image de l'icône qui est à côté, parce que l'icône, elle fait aussi un langage symbolique. Et elle interprète aussi les choses. Et pour cette icône, vous voyez que le Jourdain, alors il y a des poissons, hein, c'est bien une eau vive, mais le Jourdain, c'est une espèce de grotte dans une montagne. Vous voyez ? C'est intentionnel, hein, le peintre savait dessiner autrement. Hein. C'est pas parce qu'il sait pas faire. Voilà. Donc c'est comme une grotte dans une montagne. C'est comme si le Christ, par le baptême, descendait au plus profond de la création pour la renouveler. C'est ça que ça dit. Alors, si je vais, du coup, lire la deuxième lettre, la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. » Donc Jésus descend. Il est au ciel, il s'incarne, pour lui c'est déjà une descente. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, il descend encore plus bas, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Donc cette grotte de l'icône, ça peut aussi être le tombeau. Bon. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Ah, il remonte. Dieu l'a exalté, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Alors, c'est ce qu'on appelle la kénose. Jésus s'abaisse, descend au plus bas. Et donc, alors, en plus, c'est là où c'est formidable, c'est que le Jourdain, vous voyez, dans mon langage symbolique, puisque c'est Dieu qui a créé la matière et l'univers, il sait se servir des symboles du monde qu'il a créé lui-même. Le Jourdain, il est sous le niveau de la mer. Non, je ne suis jamais allée en Terre Sainte, donc je dis ça parce qu'on m'a dit. Mais il paraît que le Jourdain, c'est quand même un des endroits les plus bas au monde. Donc vous voyez, même physiquement dans la réalité de la géographie, il s'est abaissé au plus bas pour venir nous chercher au plus bas.
Tu ne suis pas les cours là de la ville sur le terrain par
non.
Des Bernardins. Ça a commencé lundi dernier.
Ah.
Branche-toi. C'est d'accord. Exactement ça. C'est, tu vas adorer.
D'accord.
Il faut que tu fasses ça. La Bible sur le terrain. Ouais.
Donc vous voyez, dans le symbole, tout est rassemblé. Hein. Le symbole, c'est vraiment ce qui unifie. Dans le symbole, tout est rassemblé. La réalité géographique, matérielle, fonctionnelle, le sens que ça donne. Et tout est unifié. Et comme nous sommes, nous, personnes humaines, cette unité-là, ben, ça nous parle. Voilà. Alors, du coup, nos baptistères, en voilà un autre. Alors, celui-là est toujours pas sexy, mais c'est encore une fouille. Baptistère paléo-chrétien d'Ajaccio. Alors, vous voyez qu'on descend aussi. On descend dans un trou. Hein, on descend vraiment dans un trou. On remonte de l'autre côté. Et le trou, il a une forme de croix. Donc, vous passez par la mort. Ça veut dire, si je lis simplement le symbole, quand je suis baptisé, je descends avec Jésus au plus bas pour le rencontrer sur la croix, parce que je meurs avec lui, je suis englouti avec lui dans les eaux de la mort sur la croix, et après je vais ressortir. Alors ça, on verra tout à l'heure. Alors, une autre forme de baptistère. Oula. Oh ben là, vous ne voyez rien, parce que c'est trop... Ah oui, là, vous ne voyez rien du tout. Il y a trop de contraste. Alors, c'est un baptistère en Tunisie. Alors, il y a une forme circulaire, comme ça. À l'intérieur, il y a une cuve qui est en forme de croix, mais il y a comme quatre lobes. Et au fond, ici, tout à fait au fond, là où on marche, il y a une croix. Voilà, donc c'est une autre manière, vous voyez, d'être plongé. Bon, je vais passer parce qu'on ne le voit pas bien. Alors ici, un aménagement contemporain à Paris, à l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, où vous avez ce baptistère. Alors le voilà quand il est ouvert et en fonction, ça donne ça. Alors c'est une église qui a été confiée au chemin néo-catéchuménal. Et donc, ils font des baptêmes par immersion. Donc, c'est assez intéressant de voir que, vous voyez, là, la personne, elle est plongée dans la croix. Et alors, pourquoi l'immersion parle-t-il de mort et de résurrection ? Et parce que quand on vous plonge la tête comme ça, c'est le supplice de la piscine. Vous savez, vous croyez vraiment que vous allez mourir. Et trois fois, en plus. Et à chaque fois... Et donc, physiquement, vous refaites l'ouverture des poumons du nouveau-né. Vous mourrez, vous ressuscitez trois fois. Voilà. Et quand vous sortez, vous revêtez le vêtement blanc, parce que là, vous êtes nu, comme au jour de votre naissance. Enfin, pas complètement, je pense, mais symboliquement, au sens péjoratif. Enfin, bon. Voilà. Et quand vous sortez, vous revêtez le Christ. D'ailleurs, le rituel du baptême le dit. Vous êtes devenu une création nouvelle, vous avez revêtu le Christ. Là, voyez comment le rituel... donne le sens du geste. C'est pourquoi vous portez ce vêtement blanc. Parce que vous êtes une créature nouvelle, vous avez revêtu le Christ. Alors en plus, dans le blanc, il y a le symbole de la lumière, la transfiguration, Jésus qui apparaît en blanc. C'est la lumière, c'est Dieu, vous revêtez Dieu, en fait, vous êtes une créature divine. Voilà. Il y a tout ça dans le vêtement blanc. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que ça me fait penser aussi à la deuxième lettre aux Corinthiens. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Donc non seulement vous êtes une création nouvelle, parce que vous êtes mort au péché, et vos péchés sont pardonnés, et vous êtes lavé avec l'eau du baptême, mais en plus, vous appartenez à un monde nouveau. C'est-à-dire que par sa mort et sa résurrection, le Christ a transformé le monde, il a fait une nouvelle création. Et quand vous êtes baptisé, vous faites partie de la création nouvelle. Le monde ancien est déjà parti. Et c'est pourquoi vous descendez d'un côté, vous remontez de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a deux fois trois marches. Vous voyez même cette petite forme toute simple. Il y a trois marches d'un côté, trois marches de l'autre. Vous ne vous étiez pas demandé pourquoi il y avait deux escaliers ? Non, vous n'aviez pas vu aussi, vous aviez vu qu'il y avait deux escaliers. Voilà, parce que je descends, mais je remonte de l'autre côté. Je ne suis plus la même personne. Voilà. Et alors en plus, je vis un passage. Alors ça, c'est très intéressant aussi.
Je suis la même personne, mais je prends un nouveau chemin.
Ah, je pense que c'est plus radical que ça. Ah oui. En principe, c'est plus radical.
La conversion invite à changer le chemin.
Mais on est vraiment renouvelé. On est une créature nouvelle.
Mais de la même façon qu'on ressuscite, on est la même personne. Sinon on est bouddhiste.
Oui, oui, d'accord. Enfin, cela, c'est quand même Saint Paul hein, qui dit ça. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait comme si vous faisiez un passage. Si vous avez encore en tête l'image du Jourdain, vous savez que les Hébreux, pour entrer en Terre promise, ont passé le Jourdain. Ils sont passés du désert du monde ancien à la Terre promise, en traversant le Jourdain. Donc ici, c'est comme si vous traversiez le Jourdain. Vous faites le passage vers la Terre promise. Ça, c'est intéressant aussi. Et là, je suis au niveau 3, hein. Vous voyez, parce que je commence à développer le symbole avec d'autres références bibliques qui font écho, d'autres choses que le Christ a faites, a dites, que le peuple hébreu a vécu, et je mets tout ça ensemble par le symbole qui va réunir tous ces sens, et ça élargit évidemment le sens de ce que je vis par le baptême. Mais c'est pas artificiel, c'est vrai, c'est parce que le mystère est grand. Donc il faut beaucoup de ramasser, explorer des idées, des citations, des références pour chercher à montrer combien ce mystère est grand et riche. Alors oui, oh bah tiens, on pourrait peut-être éteindre les premières lumières, c'est peut-être pour ça que c'est pas bon. C'est mieux. Alors je vais vous remontrer le baptistère de Tunisie. Peut-être qu'on le verra mieux. Parce que vous m'avez cru sur parole, vous êtes sympa, mais voilà. Oui, vous voyez un peu mieux. Il y a la croix au fond là. Voilà. Alors celui-ci, il est dans une église de la région parisienne, à Fresnes. C'est intéressant aussi, ça reprend la même forme. Vous voyez que notre baptistère paléo-chrétien, les trois marches pour descendre, les trois marches pour remonter. Là, le problème pour moi, c'est que la fleuriste, elle n'a pas compris ça. Elle a mis le vase dans le passage.
Oui.
Alors, mais elle ne s'est pas rendue compte. Hein.
Elle savait peut-être pas.
Mais voyez l'importance de comprendre les symboles. Parce que du coup, le bouquet...
Au moment du baptême.
Oui. Si. Oui. Mais si ces espaces de célébration de sacrement sont pérennes dans un lieu fixe et qu'on ne les enlève pas une fois que le sacrement est terminé, c'est parce qu'ils continuent à nous parler. Vous voyez ? Et donc c'est intéressant aussi de respecter ça. Bon, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est juste... Voilà. Alors, quand on fait des fouilles dans des complexes cathédraux paléo-chrétiens, on trouve par exemple ce genre de choses. Alors ça, c'est Salone, c'est en Croatie. Et vous avez la basilique, donc c'est la cathédrale en fait qui est comme ça. Il y a un narthex, donc narthex c'est comme une grande antichambre. Et les catéchumènes, qui n'étaient donc pas encore baptisés, n'entraient pas dans l'espace liturgique. Ils n'avaient pas encore accès à l'Eucharistie, ils n'étaient pas baptisés. Ils restaient dans le narthex. Et le jour de leur baptême, on leur faisait faire ce parcours-là. Alors ici... un dernier enseignement, et puis on fait le tour. Ici, il y a un petit vestiaire. On se déshabille, et puis on va être plongé dans le baptistère qui est en forme de croix. Et quand on ressort, on est une création nouvelle. Donc là, il n'y a pas les trois escaliers pour descendre, les trois escaliers pour remonter. Vous voyez, on a aménagé ça autrement, mais pour dire la même chose. Et donc, ils vont ressortir par une autre porte. Voilà, ce qui dit la même chose, avec un autre moyen matériel. Et cette autre porte les emmène à travers un péristyle directement dans l'assemblée qui les accueille comme un nouveau membre. Voilà. Et ils ont fait un parcours. Alors, il y a un endroit où on leur remet un vêtement. C'est peut-être ici. Et non, ou ici, c'est peut-être l'onction d'huile. Cette espèce de... Bon, ça, j'ai pas... Alors, un autre exemple ici en 3D, le baptistère Saint-Jean de Marseille. Il y a aussi deux portes. Alors là, je ne sais pas si on entrait par là et ressortait par là, parce que je ne sais pas comment ça se greffait sur... l'architecture, mais bon, voilà, on entrait par une porte, on sortait par une autre. Alors, dans un aménagement contemporain, on a essayé de faire ça aussi, à la cathédrale d'Évry. Bon.
Bien quand même.
Bon, mais voilà, alors symboliquement, quand même, la cuve est ronde. Alors, je parlerai des formes après. La cuve est ronde, elle est là, hein, le baptistère. Il est près d'une porte, donc on passe par la porte, là. Quand on est catéchumène, on est sur le côté, on n'est pas encore pleinement dans l'assemblée, on peut dire. Bon. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la cuve, il y a trois petites marches pour descendre et trois petites marches pour remonter. Alors c'est tout petit, mais ils ont quand même mis les deux fois trois marches. Alors on aurait pu se dire, oh bah pour une question pratique, on va mettre qu'un seul escalier, ça suffira bien. Ah non, non, ils ont mis les deux escaliers. Et puis là, vous voyez, il y a une rigole, et donc c'est pour faire une cascade, parce que c'est vraiment de l'eau vive. Voilà.
Les trois marches, c'est Père, Fils et Esprit.
Oui, on va le dire après. Oui. Alors ici, bon, plus près de chez nous, Vannes, Église Saint-Guen. Un baptistère qui est assez intéressant aussi. On entre par ici, on est baptisé là, et puis après, il y a une autre porte. Alors là, c'est pareil, si vous avez un banc ou une table devant, là-bas, c'est loupé. Hein. Mais normalement, on doit faire comme ça. Enfin, l'architecture dit qu'on doit faire comme ça. Ça a été prévu pour ça. On entre ici, on est baptisé, et ensuite, on ressort. Alors, c'est intéressant parce que ici, j'ai souligné, là, c'est la dernière station du chemin de croix. Le chemin de croix a été installé dans l'église pour que la dernière station, c'est la résurrection, soit à côté du baptistère. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès. L'artiste a-t-il voulu ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois ça, je me dis, ah, c'est intéressant. Alors, en perspective, on a la croix, vous voyez, la mort et la résurrection. C'est intéressant, ça nourrit le symbole. Alors après, ici, peut-être la réserve que je ferai, c'est que c'est une époque où on veut voir, hein, et donc on a installé le baptistère, et la nef est par là, pour que les gens voient. Alors effectivement, on vit un passage, le passage nous mène à l'Eucharistie, ce qui est très intéressant, mais ça n'est pas la porte de l'Église. Alors, ici, au contraire, on a disposé le baptistère par rapport à l'architecture de l'Église dans une situation plus traditionnelle, comme à Salone en Croatie, que je viens de vous montrer, c'est l'église Saint-Pie-X de Vannes. Alors l'église est comme ça, le chœur est ici. Donc, ici, on a le porche avec le clocher, et le baptistère est là. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le baptistère ouvre directement depuis le porche d'entrée. Vous entrez par là, vous avez une petite pièce qui était pour les exorcismes. Enfin, le premier temps du rituel, c'est l'exorcisme. Et ensuite, vous entrez dans ce baptistère. Et quand vous êtes baptisé, comme à Salone, vous avez une porte ici qui vous amène de plein pied dans l'église. Et alors en plus, ici, les petites chapelles qui sont là, c'était les confessionnaux. Pour bien dire que quand vous allez vous confesser, en fait, vous renouvelez les grâces de votre baptême. Vous voyez ? Voilà. Alors ce baptistère-là est tout à fait intéressant, on le détaillera tout à l'heure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette position nous dit... Le fait de passer par le porche, comme à Salone, et de ressortir par une autre porte qui vous amène directement dans l'église, ça nous dit que le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'église avec un grand E. Si l'église avec un petit E est le lieu du rassemblement de l'église avec un grand E, le baptistère est la porte d'entrée, comme le baptême est la porte d'entrée dans l'assemblée chrétienne. Donc le baptistère, là, est bien situé. Enfin, il a du sens. On peut le situer autrement, on n'est pas obligé. Vous voyez, tout ça, on n'est jamais obligé. Mais ça donne du sens. Et c'est intéressant. Alors ici, on a une autre disposition. Donc c'est l'église de tout à l'heure, que je vous ai déjà montré. Je vous montrais une photo un peu plus jolie que celle-là. Voilà, Fresnes. Mais voyez comment ce baptistère est disposé par rapport à la... Le bouquet de fleurs était là. Voilà, comment le baptistère est disposé par rapport à l'allée centrale qui nous conduit à l'autel. Alors là, c'est intéressant parce que on a la même idée qu'à Saint-Guen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est baptisé, on a accès à l'Eucharistie. Je vous rappelle qu'à l'époque paléochrétienne, quand on était baptisé adulte, c'était la veillée pascale. À la cathédrale, on recevait dans la foulée le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Donc le baptême conduit à l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est la pleine communion avec toute l'Église dans laquelle on vient d'entrer. Et là, ici, la disposition de ce baptistère, elle le dit bien. Naturellement, je descends les trois marches, je remonte, c'est pour aller à l'autel. Et en plus, je remonte toute l'assemblée dont je fais désormais partie. Alors en plus, un autre élément qu'on voit sur le plan, qu'on ne voit pas sur la photo, mais qu'on voit sur le plan, c'est que vous voyez, c'est pas au milieu de la nef, mais au tiers. Et ils ont disposé les bancs de deux façons différentes, pour bien noter qu'il y a un avant et un après. Alors, est-ce que ces bancs-là sont réservés aux catéchumènes ? Peut-être. Peut-être pas, peut-être que n'importe qui peut s'asseoir là. Voilà, il n'y a pas une police qui va dire « Ah, attention, vous n'avez pas respecté le symbole !» Non. Mais cependant, voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'ici, il y a des bancs disposés d'une certaine manière avant et d'autres d'une autre manière après. Alors en plus, il y a un narthex, enfin bon. Alors encore une autre disposition dans une église contemporaine. Alors je parle beaucoup du baptistère, mais je ne suis pas la seule, parce qu'en fait, dans les églises. Au XXe siècle, on a beaucoup travaillé ces symboles-là en redécouvrant les baptistères paléochrétiens, justement. Alors ici, c'est Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Paris. Alors, il y a un contexte de construction très particulier. Le diocèse de Paris n'avait qu'un tout petit terrain microscopique. Et donc, il fallait tout construire en hauteur. Alors, pour une église, c'est compliqué. Donc, le baptistère est dans le grenier. Non, le presbytère est dans le grenier de l'église. Et le baptistère est en dessous, à la cave. Parce qu'on ne pouvait pas s'étaler sur la parcelle, qui était trop petite. Mais ils ont tiré parti de la chose, parce que du coup, bon, il y a un grand escalier qui n'a pas que trois marches, parce qu'il faut bien descendre et il faut bien monter. Mais ils ont installé le baptistère. Vous voyez qu'au-dessus du baptistère, ici c'est le plafond, donc c'est le sol de la nef qui est au-dessus. Et il y a une croix, et c'est percé avec des pavés de verre. Et donc quand vous êtes dans la nef, vous avez le baptistère sous vos pieds. Ça dit la même chose que Fresne, que l'image d'avant, mais ça le dit autrement. C'est grâce au baptême que vous êtes dans cette assemblée. Alors en plus, ça a un intérêt, c'est que pour les obsèques, vous savez que la liturgie des obsèques fait beaucoup référence au baptême. On dit il a été baptisé, etc. On allume le cierge pascal comme au baptême, on asperge le corps comme au baptême, voilà. Et donc, dans cette église-là, on peut mettre le cercueil au-dessus du baptistère, au droit du baptistère. Et du coup, tout le rituel des funérailles prend du sens aussi. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà. Alors, la porte, hein, la porte. Si je vais à mon niveau 3, je cherche des références bibliques. Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est renaît de l'eau et de l'esprit. Alors, ici on a l'idée de la porte, hein, entrée, mais on a aussi la naissance, on en a déjà parlé un petit peu. Alors, je vous ai mis aussi une homélie de saint Augustin qui développe cette idée du baptême comme deuxième naissance. Ceux qui sont renés dans le Christ, c'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés. Alors, il parle en fait aux nouveaux baptisés, il leur fait une catéchèse mystagogique. C'est-à-dire qu'une semaine après leur baptême, il les réunit, il leur explique ce qu'ils ont vécu. Voilà. Ceux qui sont renés dans le Christ, c'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés, vous qui êtes des tout-petits dans le Christ, la nouvelle génération mise au monde par l'Église, le don du Père, la fécondité de la Mère, de tendres bourgeons, la fleur de notre fierté, le fruit de notre labeur, ma joie et ma couronne, vous qui tenez bon dans le Seigneur. Voilà, mise au monde et renés dans le Christ. Alors c'est la raison pour laquelle, enfin, on peut interpréter ça comme ça, des baptistères antiques, qui en fait réutilisaient les fontaines, les nymphéas. Dans la cité romaine, il y avait des fontaines de cette sorte-là. Ces nymphéas faisaient comme un lieu clos. Un lieu clos, mais ça, je l'ai déjà dit, ça, ceux qui étaient en première année, je pense, j'en avais vu ça. Voilà, un lieu clos assez sombre, avec une ouverture en hauteur. Donc ça, c'est un baptistère paléo-chrétien à Aix-en-Provence. Et vous voyez, ça ressemble un ventre maternel, et puis l'issue vers la lumière. On va renaître. Donc ne pas avoir peur des petits baptistères. Ah, bah toute la famille ne peut pas rentrer. Bah oui, mais toute la famille n'était pas dans la salle d'accouchement. Hein. Voilà. Par contre, toute la famille accueille le nouveau baptisé quand il sort. Ah, ça, oui. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle certains baptistères vont avoir une forme ovoïde. Comme celui-là, vous voyez, une cuve toute, comme un œuf. Alors on descend aussi par trois marches, on remonte de l'autre côté. C'est un autre baptistère tunisien avec une croix, là, qui est plongée dedans. Vous voyez, là, c'est la croix est comme plongée dans l'eau. On reverra ça tout à l'heure sur une autre image. Alors, à partir du 18e, on a beaucoup utilisé pour les baptistères cette forme d'œuf, cette forme ovoïde. L'œuf, c'est la nouvelle naissance. C'est aussi un symbole pascal, les œufs de Pâques. C'est parce que c'est un symbole d'éternité dans beaucoup de cultures. Donc je renais à la vie éternelle, pour la vie éternelle. Voilà, ça peut paraître un peu simple comme symbole, mais... Alors ça c'est l'église, le baptistère de l'église Saint-Louis de Lorient, où le père Guénaël Moret a fait réouvrir ce baptistère qui avait été fermé pour faire une salle d'accueil, parce qu'on baptisait, on avait pris l'habitude de baptiser dans une bassine en cuivre devant tout le monde. Que tout le monde voit. Et le père Guénaël s'est dit, c'est dommage, ce baptistère est très beau. Tout le monde ne voit pas, tout le monde n'est pas dans la salle d'accouchement. Mais quand le baptisé sort de cet espace assez réduit, c'est cette architecture, bon, on peut ne pas aimer, hein, c'est du béton, c'est, voilà. Mais le plus beau point de vue de cette église qu'on a, quand on, la manière de saisir l'ensemble de l'espace, c'est quand on sort du baptistère. Donc c'est fait pour que le baptisé sortant du baptistère, tout d'un coup, ait cette impression d'infini, voyez, où il va vivre une vie nouvelle, et là, l'assemblée entière l'accueille en chantant. Alors nous revenons encore à notre petit baptistère, parce que nous n'avons pas tout dit. La fameuse forme. Alors, quelle est la forme de celui-là ? L'octogone, voilà. Hervé, le nombre de fois où il m'a entendu parler de l'octogone baptismal. C'est pour ça que cette fois-ci, je l'ai mis à la fin. Ça. Alors, l'octogone, voilà. Cette cuve est octogonale. Parce que, effectivement, on fait partie de la création nouvelle. On a déjà vu ça tout à l'heure. Alors, je vous en montre quelques-uns. Baptistères octogonaux, pour vous montrer que c'est une forme assez fréquente. Baptistère de Ravenne, au 5e siècle. Ici, c'est Fréjus. Donc en France, fin du 5e, alors il est là, le baptistère. Ici, vous avez une cuve octogonale qui est dans une architecture elle-même octogonale, mais enserrée dans un carré. Et il y a aussi les deux portes. Une porte pour entrer, une porte pour sortir, dans l'axe de la cathédrale. Voilà. Baptistère de Florence, il est octogonal. Chez nous, on a des cuves comme ça. À Cléguer, par exemple, octogonale. À Moron, octogonale. À Guidel, octogonale. Bon, c'est une forme assez classique. Alors pourquoi choisit-on le 8 pour les baptistères ? Eh bien parce que le 8e jour, dans l'Ancien Testament, c'est le jour de la purification. Alors purification de la lèpre, qui est symbole du péché. Le 8e jour, quand on est guéri de la lèpre, on va le 8e jour se montrer au prêtre. Le 8e jour, il prendra deux agneaux sans défaut, une annuelle de l'année, etc. Le prêtre qui accomplit la purification placera l'homme à purifier ainsi que ses offrandes devant le Seigneur, devant l'entrée de la tente de la rencontre, le 8e jour. Le 8e jour, c'est la circoncision. La circoncision, c'est le signe de l'appartenance au peuple élu, préfiguration de l'adoption filiale qu'on obtient par le baptême. Donc là, on nous dit, le 8, référence aux rites anciens qui sont nos rites parents, on va dire, la circoncision, la purification de la lèpre, et puis si vous cherchez 8 dans la Bible, vous allez trouver plein d'autres rites qui sont demandés le 8e jour, mais toujours avec ce sens de purification et d'appartenance à l'Alliance. Alors, le 8e jour, c'est aussi le jour de la résurrection. Alors on nous dit le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été roulée du tombeau. Donc Jésus est ressuscité le matin du 8e jour, ou le matin du premier jour. C'est la même chose. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où il se trouvait les disciples étaient verrouillées. Alors nous, on dit week-end. Donc pour nous, dimanche, c'est la fin de la semaine. Et en fait, si vous écoutez bien... la prière eucharistique, c'est le premier jour. Alors, pourquoi 8 et premier, est-ce la même chose ? Alors, il y a saint Augustin à nouveau qui nous l'explique. En fait, c'est parce que Dieu crée le monde en 7 jours, le 7e, il se repose. Enfin, il crée en 6 jours et le 7e, il se repose. Le 7e, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le grand repos. Alors, vous voyez, Jésus accomplit l'Écriture et il accomplit les symboles. Le samedi saint, il ne se passe rien. Le Christ est au tombeau, c'est le repos du Shabbat, qui est en fait le repos de sa mort. Enfin, en fait, on dit qu'il descend aux enfers, il va chercher, etc. Donc il ne reste pas inactif dans son repos. Mais le samedi saint va. Et il ressuscite le matin du premier jour, effectivement, qui pour nous est le 7 plus 1, 8. Mais le premier jour, parce que c'est une création nouvelle, puisque la première création était en 7 jours, Jésus inaugure par sa résurrection, au matin, du 8e jour, une création nouvelle. D'où l'importance du 8 pour le baptême. Voilà, alors c'est ce que saint Augustin explique ici. C'est le pardon de tous les péchés, Voilà, c'est aujourd'hui l'octave de votre naissance. Ben oui, parce qu'il leur parle 8 jours après. Aujourd'hui s'accomplit en vous le sceau de la foi qui était conféré chez les anciens avec la circoncision. Voilà, il a marqué...
Avec notre calendrier, ça ne marche pas.
Pourquoi ?
Notre calendrier, il n'y a que 7 jours par semaine.
Par rapport au deuxième dimanche de Pâques ?
Non, parce que notre calendrier, c'est le calendrier biblique, mais le calendrier... on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est le sixième jour. Le samedi, c'est pas le septième.
Oui, mais ça dépend. Si tu pars du dimanche.
Ouais.
Le premier jour, c'est le dimanche.
Ah, oui.
Et le dimanche suivant, c'est le huitième. Tu associes le premier et le huit.
Ah ouais.
Et ça dépend comment tu te places. Bon, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, le huitième en même temps que le premier. Vous voyez, Saint Augustin, déjà, il jouait là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on peut le faire. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais dire ici ? Huitième jour. Ça, c'est la lettre de Pierre. La lettre de Pierre. Alors, lui aussi, il joue sur les chiffres. Voilà, la lettre de Pierre au chapitre 3. « Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. » Donc, mort et ressuscité. « C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout, 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » 8 personnes, Noé, sa femme, les 3 fils et 3 belles-filles. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Voyez, Saint Pierre, lui aussi, fait des figures et des symboles. Le déluge, c'était une figure du baptême, parce qu'ils étaient 8 dans l'arche et ils ont été sauvés des eaux de la mort pour une création nouvelle. Et voilà, et là j'ai parlé un langage symbolique. Alors, une autre vertu de l'octogone, c'est qu'il est à la fois carré et cercle. Il fait l'alliance du carré qui est une figure terrestre, on va dire, les 4 points cardinaux, les 4 éléments, une figure stable. Ça, c'est vrai dans beaucoup de cultures. Et puis le cercle qui n'a pas de début ni de fin, ça va être un symbole divin. Et donc quand on est baptisé, on se crée en nous l'alliance de la terre et du ciel. Voilà. Et donc l'alliance du carré et du cercle, si vous voulez. Alors, dans beaucoup de baptistères, on va jouer là-dessus. Ici, bon, là, vraiment, il avait travaillé le symbole, cet architecte, monsieur Maisonneuve. Alors, il y a un octogone parce qu'il a fait 8 triangles. Alors après, il ne faut pas trop pousser non plus. Là. On ne va pas se dire, ah oui, il y a des triangles, alors c'est Dieu, 8 fois Dieu. Non, il faut commencer. Là, il faut rester quand même... Il faut rester sobre. Enfin, il a quand même 8 facettes et puis un cercle qui s'inscrit dans un carré. Si vous vous souvenez des images de baptistère que j'ai montrées avant, il y avait le baptistère tunisien qu'on voyait mal une première fois. Il était inscrit dans un cercle, mais il y avait un quadrilobe qui formait une croix, mais c'était quand même 4 lobes dans un cercle. Voilà. Ici, c'est le fameux baptistère de l'église Saint-Pédis dont je vous ai montré le plan tout à l'heure. Vous voyez que là, on joue aussi sur ces symboles-là. Là, l'escalier, c'est 3 marches en cercle. Il y a 4 poteaux, la cuve est octogonale, voilà. Et là vous pouvez chercher les carrés et les cercles. Alors en plus, sur le couvercle, il y a des figures qui sont gravées, le baptême du Christ, l'arche de Noé. Alors, il y a donc des préfigurations, vous voyez même dans le vocabulaire, une figure, une préfiguration du baptême. En architecture aussi, pour pouvoir faire l'alliance entre un carré et un cercle, quand vous avez à la croisée du transept 4 piliers qui forment un carré et que vous voulez poser dessus une coupole, eh bien vous avez une technique d'architecture qui vous fait faire une coupole sur pendentif. Vous voyez, le pendentif, c'est ça, voilà, pour faire l'angle. Et du coup vous avez divisé votre coupole en 8 sections. Voilà encore une autre application de l'octogone qui fait l'alliance entre le carré et le cercle. Ici je trouve que ça se voit bien. Donc ça, c'est à Merlevenet. Alors c'est intéressant parce qu'on a mis l'autel en dessous, à la croisée du transept. Alors ça a des inconvénients, ça bouche la circulation, mais en tout cas, l'autel sous cette coupole, voilà, ça peut aussi être interprété de manière riche. Alors, un tout petit bénitier qui a l'air de rien, comme ça, en faïence, années 50, pas terrible. Alors, je vous montre des images pas terribles, pour vous montrer qu'en fait, même dans une église où vous vous dites « Oh bon, il n'y a rien ici, elle n'est pas très belle », ah, bah, vous pouvez quand même trouver des choses à dire. Alors, ce bénitier-là, en plus, il n'est même pas propre. Donc, c'est vraiment le contre-exemple, mais bon, c'est pas grave, je fais exprès. Une croix dans un cercle et un octogone. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que le bénitier, à l'entrée de l'église, à l'entrée, la porte, c'est pour qu'on se rappelle son baptême. Il y a de l'eau, on se signe, on refait un condensé du rituel baptismal en entrant. Dans les fontaines, alors là aussi on peut interpréter. Alors les gens du pays, ils vous disent, ah bah oui, mais le rond là, c'est pour laver le cul du seau avant de le mettre dans la fontaine. Un aspect pratique, fonctionnel, bien sûr. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ici un bassin carré qui coule dans un petit bassin rond. Et puis en plus, il y a de l'eau. Je me dis, tiens, la fontaine, baptême. Bah oui, ah bah oui. Tiens, pourquoi pas. Celui-là. Ah, celui-là, c'est très très belle chapelle, ça, il faut y aller. Je ne vous montre pas toute la chapelle, mais chapelle Notre-Dame du Manéguen à Guénin. Alors, petit bénitier à l'entrée, c'est la porte de côté. Alors, regardez, trois marches, un petit perron de trois marches. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Enfin, j'en sais rien. Hein. Enfin, moi, ça me parle. Vous voyez, j'ai le droit d'interpréter. Là, j'arrive, moi, ça me donne des frissons, ça, je vois. Il y a trois marches, et puis là, le bénitier, un beau cercle. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de faire cette niche carrée, là, derrière? C'est pas pour mettre les livres de messe, hein. Vous voyez, un carré, un cercle et trois marches. Ce bénitier est très parlant. Très parlant. Voilà, alors les fameuses trois marches. Pourquoi trois marches? Ben parce qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que le baptême du Seigneur, c'est une épiphanie. C'est dimanche prochain, pas très loin de l'épiphanie avec... les rois mages, il y a une nouvelle épiphanie, c'est le baptême du Seigneur, parce que ce jour-là, on a entendu la voix du Père, on a vu la colombe de l'Esprit-Saint et le Christ était dans l'eau. Donc il y a eu une manifestation de la Trinité, c'est rare dans l'histoire du peuple juif et peuple chrétien qu'il y ait une manifestation si visible de la Trinité. Voilà, donc le baptême du Seigneur est une épiphanie, est une manifestation de la Trinité. Alors c'est intéressant qu'il y ait le 3 dans les baptistères. Alors, dans celui-ci, on avait bien nos trois marches. Alors, je vous remets celui-là, cette fois-ci, pour vous faire remarquer cette chose-là. Vous voyez, il y a notre cuve octogonale, et puis ici, il y a une chose, là. Alors, on va la voir mieux ici. En fait, c'est un embon. C'est un embon. Alors, pourquoi mettre un embon comme ça dans un baptistère? Alors, on proclame la parole de Dieu avant le baptême. Ça, c'est dans le rituel de Vatican II. Je ne sais pas si on faisait ça à l'époque paléo-chrétienne, mais en tout cas, sur l'embon, regardez, qu'est-ce que vous voyez là?
Une
colombe, la croix. Et imaginez qu'il y a de l'eau là-dedans. La croix, elle est plongée dans l'eau. Donc le Christ est plongé dans l'eau. Il y a la colombe de l'Esprit-Saint, et l'embon, c'est la parole de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, on entend sa parole. Et bien, c'est l'embon. Vous voyez comment tout ce dispositif-là... Alors, en plus, pour couronner le tout, c'est le cas de le dire, donc ça, c'est l'embon, au-dessus, dans la coupole, ben, il y a un baptême du Seigneur. Vous voyez comment l'image, ici c'est juste une image 2D qui nous rappelle un événement ou un texte évangélique, comment cette image, en fait, elle est mise en 3D, si je puis dire, dans l'aménagement du baptistère pour dire que ce qui va être vécu, c'est la même chose que le baptême du Christ. Voilà. Enfin, en tout cas, ça c'est Ravenne. Très très beau. Alors, ah oui. Donc pour conclure cette première partie sur... À quelle heure je termine? Dans une heure. Pour conclure cette première partie sur les baptistères et les différents niveaux du langage symbolique, je voulais revenir sur ce baptistère-là assez simple, vous voyez, assez simple, pour vous montrer la puissance du symbole, à la fois pour la personne qui vit le baptême, mais je pense que vous l'avez bien compris, mais aussi pour quand on fait aujourd'hui de la préparation au baptême. Vous recevez une famille dans une paroisse. Ils ne mettent plus les pieds à l'église depuis des années, mais ils tiennent à ce que leur enfant soit baptisé. C'est super. Et comment on va leur expliquer en 10 minutes, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, puis voilà, comment on va leur expliquer la grandeur du mystère du sacrement qu'ils demandent. Vous n'allez pas leur faire un cours de théologie, ils vont être dépassés, puis ils ne sont pas venus pour ça, ça ne les intéresse pas. Vous les amenez là, et bien vous voyez, votre enfant va être baptisé là, regardez, on va se servir de cette cuve. Alors regardez, il y a un endroit pour puiser l'eau, parce que c'est de l'eau pure, parce qu'il va être purifié. Et il y a un endroit ici pour verser, ça c'est l'égout. Voilà. Parce que on est lavé. On est lavé de toutes les souillures du péché. C'est une fontaine, un fond baptismaux avec un T, parce que c'est une fontaine. Donc on va faire couler l'eau sur sa tête. Et puis, regardez, l'eau, on la puise dans une forme qui est octogonale. Et là, vous expliquez, ben c'est l'octogone parce que c'est le huitième jour, parce que Jésus est ressuscité le huitième jour. Et donc votre enfant, il va ressusciter par le baptême. C'est comme s'il mourait avec Jésus pour ressusciter, pour vivre la vie éternelle avec lui. Parce que Jésus, quand il ressuscite, c'est pour quoi faire ? C'est pour nous donner la vie éternelle. Donc par le baptême, votre enfant, il va aussi participer à cette résurrection. Et puis le 8, c'est l'alliance, l'octogone, c'est aussi l'alliance du carré et du cercle. Hein ? Donc il va devenir vraiment enfant de Dieu, une créature nouvelle, une créature divine. Voilà, ça m'a pris 3 minutes. Et vous voyez, j'ai fait un symbole, enfin une synthèse. J'ai mis ensemble beaucoup de données du mystère et que les gens peuvent comprendre et s'approprier et toucher parce que c'est matériel. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'on fait cette session patrimoine et art sacré, parce qu'il me semble que c'est important, surtout aujourd'hui, de disposer dans nos églises de lieux bien aménagés qui ont du sens pour pouvoir faire cette catéchèse. Alors là, je parle de catéchèse, mais si vous êtes dans le cas de quelqu'un qui fait visiter l'église, ou si vous voulez faire des panneaux d'accueil pour expliquer ça, on en parlera dans nos TP, mais vous êtes un guide lambda, vous n'êtes pas forcément une dame de la paroisse, et puis les gens qui viennent visiter ne sont pas forcément des chrétiens. Mais vous allez quand même leur dire au moins pourquoi c'est octogonal. Vous allez leur dire ça, c'est un baptistère, il est octogonal. Et puis vous allez peut-être le dire autrement qu'à des familles qui préparent un enfant au baptême, mais vous allez leur dire pourquoi c'est octogonal. C'est simplement leur expliquer la raison de cette forme. Vous avez fait à peu près la même catéchèse, mais ce n'était pas de la catéchèse. Vous voyez ? Voilà. Voilà l'importance du symbole qui permet de réunir ensemble un condensé du mystère qu'après on peut à nouveau déployer quand on le lit et quand on le... l'explicite, et il est comme un moyen mnémotechnique aussi. Vous voyez comme c'est riche. Voilà. Alors, on va dévider maintenant un peu rapidement des éléments du vocabulaire symbolique des églises. Vous allez retrouver des choses que j'ai déjà dites dans le cours 1, mais c'est pas grave, hein, on peut réviser. Alors, une église, vous vous souvenez, c'est d'abord un espace unique. Église avec un grand E. Église avec un petit e, ça vient du latin ecclesia, qui veut dire assemblée. Donc on comprend bien comment l'église avec un grand E est l'assemblée des croyants baptisés. Et l'église avec un petit e va être comme un sacrement de cette église avec un grand E, puisque le sacrement réalise ce qu'il signifie. L'église bâtiment va signifier l'assemblée. Mais elle va aussi la permettre dans sa fonction. Vous voyez, donc elle va manifester la communauté chrétienne. C'est pour ça que nos clochers sont si importants. Si on n'a plus de clocher au milieu d'une église, au milieu d'un village, c'est une terre qui n'est plus chrétienne, on va dire. Et puis même si... Enfin bon, bref, voilà. Hein ? Voilà, un espace unique pour faire corps. Alors, ce schéma-là, je vous l'ai déjà montré, mais peut-être que tout le monde n'était pas au cours l'année dernière. Alors, traditionnellement, dans les temples, dans d'autres cultures religieuses, l'espace profane et l'espace sacré sont clairement séparés. Si vous pensez au temple de Jérusalem, pourtant les Juifs sont nos pères, hein, il y avait, comme des poupées gigognes, l'enceinte pour les païens, ensuite l'enceinte pour les femmes, ensuite l'enceinte pour les fidèles, et puis à l'intérieur le temple, et puis au cœur du temple, le Saint des Saints, où n'entraient que certains prêtres à certaines périodes de l'année, selon un certain calendrier. Voilà. Et puis, au moment de la mort du Christ en croix, le rideau du temple se déchire. On a juste cette petite expression-là dans l'Évangile. Le rideau du temple se déchire, c'est-à-dire que désormais, tout homme a accès à Dieu. Et donc, l'Église est un espace où Dieu, le prêtre et l'Assemblée peuvent être unis en un seul espace. Et ça, dans toutes les cultures religieuses, eh ben c'est original, c'est unique. Et ça dit bien ce qu'est le christianisme. Alors c'est la raison pour laquelle les chrétiens ont adopté la basilique pour faire leurs églises et non pas les temples païens. Ici, je vous remets le forum de Lutèce. Donc le forum avec les arcades, avec tout ce qu'on veut comme lieu de réunion, de commerce. Au centre du forum, un temple. Et ici, la basilique, une espèce de grande halle. Et vous voyez, les chrétiens auraient pu utiliser le temple. Une fois qu'il y a l'édit de Milan de 313 où Constantin autorise le culte public, on aurait pu recycler le temple païen pour faire une église. Ça ressemble à la Madeleine, d'ailleurs. En fait, non, on a pris la basilique. Et pourquoi ? Parce que la basilique est un grand espace unique, contrairement au temple, qui permet une grande assemblée. Voilà. Alors, bon, j'ai mis la phrase de Saint Paul, là, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbare, de scythe, d'esclave ou d'homme libre, il n'y a que le Christ qui est tout et en tout. Voilà, donc cette unité de l'espace, elle a évidemment des échos dans la parole de Dieu. Alors, la basilique le permettait, cette unité de l'espace, parce que vous voyez, on a un système de bas-côté avec des fenêtres hautes. Les fenêtres hautes permettent d'éclairer la nef et d'élargir les espaces par les bas-côtés. Voilà, c'était un système d'architecture qui permettait d'avoir un grand espace unifié. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces églises ? Eh bien, on célèbre l'Eucharistie qui réalise la communion. La communion du peuple, la coupe d'action de grâce que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voilà, on aura bien compris. Et donc, l'enjeu dans l'histoire de l'architecture chrétienne va être de conserver, malgré l'évolution des formes, ce sentiment d'unité de l'espace. Alors on le perd un petit peu à la période pendant le Moyen-Âge, et on retrouve l'unité de l'espace après le Concile de Trente. Ici c'est une église du XVIIe. Vous voyez, il n'y a plus de colonnes. C'est une nouvelle manière de créer une unité de l'espace. On a par contre développé un très beau transept bien visible depuis la nef, et quand vous êtes dans ce type d'architecture, quand vous êtes dans la nef, vous avez vraiment une impression d'espace, parce que le transept et le chœur sont unifiés. En général, vous avez des autels latéraux ici, avec un retable là, qui fait écho au retable central, et donc vous avez une grande unité qui se crée aussi par le décor. À la période contemporaine, on va penser l'unité de l'espace avec des moyens techniques nouveaux, comme ici à Locminé, une charpente métallique. Et là, ça va faire écho à notre troisième niveau d'interprétation mystique. On pense à la tente, l'idée de la tente. Hein, parce que tente, ça veut dire tabernacle, ça veut dire tente. Hein, donc Dieu campe au milieu de son peuple, comme dans la tente de la rencontre chez les Hébreux. Voilà, la maison de Dieu, c'est la tente où il habite avec sa famille. Et donc, on va avoir des architectures qui résolument prennent cette forme de tente, comme la chapelle de Kerval à Breck, ou à Lorient, l'église Sainte-Bernadette, ou encore celle-ci que j'avais montrée aussi dans le cours de l'année 1, l'église Saint-Guen en forme de tente. Voilà. Alors, dans cette architecture qu'on cherche à rendre visiblement unifiée, il y a quand même des articulations. On va articuler différents espaces qui chacun a sa fonction et donc son sens. Alors, la nef, on va commencer par ça. Alors, la nef, vous voyez, c'est intéressant aussi comme mot, parce qu'en français, je ne sais pas comment c'est dans les autres langues, mais en français, ça a un double sens. La nef, c'est aussi la barque de pierre. Or, la barque de pierre, c'est aussi une manière de dire l'église. Vous voyez, si je représente, si je prends cette petite miniature de l'évangéliaire d'Egbert, du Xe siècle, je vois, bon, c'est l'épisode de la tempête apaisée, Jésus qui dort au fond de la barque, et puis, une fois qu'il se réveille, il se met en tête pour conduire la barque. Et ça devient l'image de l'église, avec un grand E. La barque de pierre avec Jésus dedans. Voilà, la nef. Alors, on a déjà montré cette image, mais là, je reviens pour montrer comment la place du baptistère dit l'identité du peuple rassemblé ici. Et quelquefois, on n'a pas de baptistère, mais on peut avoir un bénitier qu'on a mis, au lieu de le mettre à la porte, ben on l'a mis au centre de la nef. Vous voyez, pour dire que à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous dites, ah ben oui, ça, c'est parce que tout le peuple qui est rassemblé autour a son unité grâce à un unique baptême. Voilà. Alors c'est pareil à la chapelle, l'ancienne chapelle de l'ancien Carmel de Vannes. Les sœurs avaient mis dans leur aménagement le bénitier dans l'axe, vous voyez, comme on a le baptistère à l'église de Fresnes. Alors dans cette nef, on peut avoir quelquefois des décors un peu curieux, comme celui-ci. Voilà, dans les cathédrales, on pouvait avoir des labyrinthes, vous voyez, qui prend une bonne partie de la nef, et donc qui nous parle de le peuple rassemblé à cet endroit-là dans la nef. C'est un peuple en marche, qui a encore de la route. Il est déjà ressuscité avec le Christ par le baptême, mais l'accomplissement total n'est pas encore acquis. Il y a encore du boulot. Et puis quelquefois, on chute. Et donc dans le labyrinthe, eh ben, on prend des mauvaises routes, on fait demi-tour, il y a des choses trappes, enfin là pas trop, mais en tout cas la route est longue. La route est longue, mais finalement au bout du compte, on est dans un grand cercle. On est dans la miséricorde de Dieu. Voilà. Et donc ce labyrinthe à cet endroit-là de la nef, donc c'est l'entrée, nous dit que le peuple de Dieu réuni là est un peuple qui marche et qui a besoin encore d'être pardonné, de se relever à chaque fois, de se convertir. Voilà. Alors les gens font le petit exercice. Et puis il y a une sœur qui s'est assise là. Elle est arrivée à la fin. Elle est bien là. Alors, dans la nef, on va avoir des décors qui vont nous parler de ce grand chemin de la vie. Alors, le chemin de la vie, semé d'embûches, les embûches du péché. Alors, dans les chapiteaux romans, on va avoir, par exemple, des scènes de combat spirituel, comme ici. Ou bien alors, sur les voûtes des églises, on va avoir des peintures qui nous racontent toute l'histoire du peuple de Dieu. Comme ici, à Saint-Savin-sur-Gartempe, une église romane du XIe siècle, où vous avez la lettre aux Hébreux qui est décrite avec tous nos prédécesseurs dans la foi. Donc, ça va faire l'unité entre l'aventure des premiers croyants et l'Église qui la prolonge. Voilà, alors un petit extrait, mais ça je vous avais montré aussi. À l'époque gothique, on va avoir ces symboles de combat spirituel plutôt dans les sablières. Voilà. Donc il y a différents endroits dans l'Église selon les styles architecturaux, mais c'est toujours le même sens. Et alors cette nef, elle est habitée par des processions. Voilà, elle est habitée par des processions, et le but des processions, c'est aussi de constituer le corps, comme le chant d'entrée. Pourquoi est-ce qu'il y a un chant d'entrée au début de la messe ? C'est pour qu'on travaille à unir nos voix, pour constituer l'assemblée comme corps. Et la procession participe. Alors ici, visiblement, c'est une profession de foi, il y a encore beaucoup de monde, c'est une vieille photo. Enfin, ou alors c'est en ville. Alors il y a voilà, une profession de foi. Et voyez comment tous les parents qui sont là, les parrains, marraines, la famille, c'est un petit peu la fête. Et le fait que les enfants remontent en procession l'allée centrale, voilà, ça va rappeler à toute l'assemblée pourquoi elle est là. Et visuellement, toute l'assemblée va suivre cette procession pour entrer dans la célébration. Donc ça va constituer le corps priant de l'Église qui est là. Et toute cette procession... En plus, ils sont habillés en blanc, donc l'habit de leur baptême, un habit de ressuscité, et ils suivent la croix, évidemment. On met toujours la croix en tête de la procession. On suit le Christ. On laisse toujours la croix en tête de la procession. Alors, c'est comme parce qu'on acclame aussi le Christ qui entre à Jérusalem. Alors ici, bon, je mets une image d'une procession dans un pardon, parce qu'on peut aussi sortir processionner. Ça aussi, ça a du sens. Ça veut dire qu'on va sanctifier... toute la campagne aux alentours de la chapelle, hein, et dire que le Christ est venu aussi sauver toute la nature qui est autour, les gens qui habitent partout et qui ne sont pas forcément là aujourd'hui avec nous. Et voilà, on aime cette procession d'une église qui sort, hein, comme après la Pentecôte. Voilà. Alors, quelquefois, il y a des bas-côtés. Alors, les bas-côtés, dans la nef, peuvent avoir différentes fonctions, selon... les époques historiques, et donc on va les interpréter de différentes manières aussi. Alors, dans la basilique, je vous ai déjà dit, les colonnes, elles sont, vous voyez, assez hautes, les bas-côtés sont très visibles. Le but était vraiment de faire un espace le plus large possible. Voilà, donc les bas-côtés dans l'église paléo-chrétienne basilicale, était fait pour agrandir la nef, pour pouvoir constituer l'église dans son unité. Au Moyen-Âge, ils vont avoir une fonction différente. Ici, on est à Saint-Gilda-de-Ruys, donc époque romane. Au Moyen-Âge, on pèlerine. On pèlerine beaucoup, c'est la pratique habituelle, c'est le pèlerinage. Et donc, on a besoin de circuler autour de l'église et d'aller dans les différentes chapelles faire la dévotion aux reliques. Et donc, le bas-côté prend un autre sens, ça devient le chemin de pèlerinage, lui-même symbole de notre chemin terrestre. Et dans ces bas-côtés, comme ici à Calan, du coup, les piliers, on va pouvoir... Vous voyez, on n'a plus la colonne légère de la basilique paléochrétienne, on va avoir le pilier qui porte les voûtes en pierre dans l'église romane. Donc, ils vont prendre de la structure. Et en même temps, ils vont s'orner de chapiteaux. Alors ici, c'est à Calan. Vous avez des formes géométriques, des masques. Et on a toute une cosmogonie, en fait. L'église romane représente le cosmos entier sanctifié par le Christ. Et alors on peut voir, du coup, ça fait écho à Samuel au chapitre 2, « Car à Yahvé sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde. » Et toute l'architecture romane va chercher à développer cette thématique de l'Église comme un petit résumé du cosmos, dans lequel Dieu et l'homme se rencontrent. Alors les piliers eux-mêmes, on leur donne un autre sens symbolique, surtout quand on en a 12. Et là, on va filer la métaphore. Le langage symbolique aime bien les métaphores. Donc, 12 piliers. Les piliers de l'Église sont les apôtres. On va mettre 12 piliers à l'Église. Bâtiment. Et on les consacre. Quand on consacre l'Église, on trace une croix rituelle sur le pilier. Voilà, les fameuses croix de consécration. En principe, il y en a 12, à ne pas confondre avec les chemins de croix. Voilà. Et quelquefois, ici, il doit manquer, mais il y a un petit clou là, parce que en principe, il y a une bougie dessus ou en dessous, voilà, qu'on allume aussi à la veillée pascale ou bien le jour de l'anniversaire de la dédicace. Bon, ça, c'est les croix de consécration de l'église Saint-Louis à Lorient. Alors l'église, elle va avoir un plan en croix, très souvent. Alors ça aussi, ça peut nous parler. Hein, ça peut nous parler que l'église ait un plan en croix. Alors à l'origine, il y avait une question sans doute pratique. À l'époque romane, on a ajouté au plan basilical, vous voyez, vous retrouvez le plan basilical ici, avec les fenêtres hautes, on a rajouté, bon, l'abside existait, mais on a prolongé les bas-côtés par le déambulatoire pour pouvoir permettre les dévotions des pèlerins dans les absidioles tout autour, et puis on a ajouté le transept, une raison pratique pour pouvoir évacuer, enfin sortir, rentrer, éclairer davantage le centre de l'église, mais aussi ça a donné évidemment à l'église son plan en croix, qui est très symbolique, alors qu'on retrouve, alors quelquefois il faut chercher un petit peu, ici le Fawet, chapelle Saint-Fiacre, 15e siècle, on a un seul bas-côté, on a un porche qui dépasse, une sacristie rajoutée après, mais globalement on le voit quand même, le plan en croix, avec qui délimite donc trois espaces, la nef proprement dite, le transept et le chœur. Alors on va pouvoir, si on file la métaphore du corps du Christ, puisque l'Église réunit l'Église avec un grand E qui est le corps du Christ, eh bien, on va se dire, le Christ, c'est la tête, dans l'ecclésiologie de saint Paul. Donc le cœur, ça va être la tête, le lieu de la présence du Christ. Donc on va naturellement y mettre l'autel. Voilà. Bon, c'est un petit schéma là qui montre ça, le prêtre qui est à la place de la tête. Voilà. Bon, ici le Christ tête, voilà, ici c'est ça les phrases de saint Paul. Jésus est la tête du corps, le Christ est le chef de l'Église. Voilà, donc ça c'est la première interprétation toute simple. Et puis, mais ça peut être vécu, vous voyez, après ça peut faire écho en vous, c'est pour ça que j'ai mis le numéro 3. Quand vous êtes dans l'église, assemblée le dimanche, et que toute l'assemblée prend cette forme de croix parce qu'il y a un beau transept, eh bien ça peut vous évoquer, on est tous tournés vers le Christ, on dit bah oui, on va vers lui, c'est lui l'aîné d'une multitude de frères, il nous envoie son esprit pour que nous fassions les œuvres du Père, il est l'époux des noces. Voilà, après ça va faire écho à plein de sens. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais dire ici ? Ah ben, dans une église 17e, on a bien ce plan en croix, ça c'est assez visible, on a juste le baptistère et le porche qui dépassent, et puis l'ossuaire, mais je vais y revenir tout à l'heure. Dans une église 20e, c'est quelquefois plus difficile, surtout quand on a cherché à faire des plans centrés un peu à tort, mais vous voyez, alors ici, on a quand même une nef assez grande, assez large, assez unifiée, on a quand même réussi à former comme un transept, qu'on ne voit pas beaucoup dans la réalité, qu'on voit mieux sur le plan, en fait. Et puis, pour ceux qui avaient eu la petite partie que j'avais faite sur le corps du Christ la première année, j'ai pas fait après dans les autres séances parce que non, on n'avait pas le temps. Mais alors ici, je vous livre une petite interprétation très personnelle pour vous montrer comment on peut aller assez loin dans l'interprétation et que ça peut vraiment nous parler et nous nourrir comme nous nourrit la parole de Dieu. Je vous emmène ici à la chapelle Saint-Laurent de Silfiac, qui a un plan en croix. Il faut me croire. Donc le plan en croix comme le Christ sur la croix. Et la plaie du Christ, elle est à droite. Alors là aussi, le symbole, la richesse du symbole. Une raison pratique. Pourquoi est-ce que la plaie du Christ est toujours sur les crucifix à droite et pas à gauche? Le cœur est à gauche. Lui, il a sa plaie à droite, à sa droite à lui. Alors, l'homme du Saint-Suaire a bien la plaie de ce côté-là. Et quand on étudie certaines techniques de combat romain, on nous explique que les Romains savaient très bien ce que disent aussi les médecins aujourd'hui, d'une autre manière, c'est que pour atteindre le cœur avec une lance, à travers les côtes, il faut passer par le côté droit. Donc c'est réellement vrai que la plaie du Christ était à droite. Mais alors c'est intéressant aussi parce que dans les jubés, par exemple, ou les calvaires, quand vous mettez le bon larron et le mauvais larron de chaque côté du Christ, ben vous allez mettre le bon larron ici. La tête du Christ est penchée au-dessus de sa plaie. Le bon larron est sauvé parce qu'il a cru. Il a vu que le côté du Christ ouvert le sauvait. Le mauvais, on va le mettre là. C'est celui qui se détourne de Jésus. Or, au jugement dernier, les bénis de mon Père à droite et ceux qui refusent l'amour de Dieu à gauche, les brebis à droite, les boucs à gauche. Oui. Donc on va avoir tout ce langage symbolique qui se développe en écho à des textes évangéliques, mais aussi à partir d'une réalité très matérielle. Alors, dans la chapelle de Silfiac, parce que c'est de ça dont je parle, à ce petit endroit-là, qui correspond à peu près, par rapport au plan, vous voyez, le cœur est là, les transepts, il y a une porte au fond, une porte à droite, là. Et puis, ici, là, alors c'est pas le baptistère, ça pourrait, ce serait pas mal. C'est une fontaine. Comme c'est une chapelle, il n'y a pas de baptistère. Il y a baptistère que dans les églises paroissiales. C'est une fontaine. Une fontaine dans l'église. Une fontaine qui guérit. Nous disent les gens, ah oui, elle a des vertus particulières, elle guérit. Ah oui, tiens, tu m'étonnes. Ben oui, elle guérit. C'est le cœur du Christ qui guérit vraiment. Vous voyez comment on peut aussi, du coup, christianiser. On nous dit, ah, les chrétiens, on lit dans les livres d'histoire, là, je lis quelquefois les bouquins d'histoire qu'on donne aux enfants. Alors, les chrétiens sont les méchants qui ont christianisé de force. Mais non, ils ont utilisé les mêmes symboles que les païens, parce que l'eau, pour toutes les cultures, c'est la purification. Donc, ben, voilà, cette eau, elle guérit, elle a des vertus médicinales. Ben oui, c'est comme le cœur de Jésus. Donc on utilise le même symbole pour simplement donner son développement chrétien. Mais c'est, voilà. Moi, ça, je trouve ça magnifique, moi. La fontaine dans la chapelle. Alors là, est-ce que c'est intentionnel? Je n'en sais rien. Mais moi, ça me parle, vous voyez? Le symbole me parle. Alors, l'Église, elle a un axe. L'Église, elle a un axe parce qu'on a un passé, un présent, un futur. Vous vous souvenez tous de ça? J'ai peut-être pas besoin de... m'attarder ici. Alors, la basilique, elle avait déjà un plan rectangulaire. C'était facile de fermer les arcades latérales pour souligner l'axe. Une nef axée qui avait une direction vers l'abside. Et donc, quand on célèbre l'assemblée dans ce lieu-là, il est tourné vers l'abside, qui est la tête, où est l'autel. Et donc, on a tous dans la même direction. On chemine, on a dit tout à l'heure, on pèlerine. Heureusement, on va tous dans la même direction. Et cette direction... On nous dit la mort est dans notre dos puisqu'on est baptisé. Le présent aujourd'hui, c'est la présence du Christ dans l'Eucharistie et pour aller vers le plein accomplissement qu'est la Jérusalem céleste. Et au cœur de la messe, on le chante dans l'anamnèse, tu étais mort, c'est du passé, tu es vivant aujourd'hui, tu reviendras. Et donc le fait d'avoir des bâtiments de culte axés, ça dit cette vision du temps chrétien. Contrairement, par exemple, à des monuments bouddhistes, ici, vous avez une stupa bouddhiste avec des gens qui tournent autour. Ça, c'est aussi une image que j'avais montrée. Les gens qui tournent autour, qui n'entrent pas à l'intérieur, parce qu'ils ont une conception cyclique du temps. Vous voyez ? Donc, le bâtiment dit aussi dans sa forme. Alors, en christianisme, on a quelques bâtiments centrés, mais qui sont des mausolées. Alors, ils prennent comme exemple, enfin comme modèle, le mausolée de l'empereur Adrien, qui était donc son tombeau, qui s'est fait construire de son vivant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, donc à Rome. en 125 après Jésus-Christ, donc magnifique tombeau, et donc il est de plan centré, il est circulaire. Les chrétiens à Jérusalem, sur le tombeau du Christ, ont bâti le Saint-Sépulcre, un plan centré. Donc l'église Sainte-Croix de Quimperlé, qui est en référence à le Saint-Sépulcre, est de plan centré. L'autel est surélevé, et dans la crypte, au centre de cette, sous cette coupole, donc au centre ici, dans la crypte, vous avez une mise au tombeau. Pour bien nous expliquer pourquoi un plan centré, parce que c'est un tombeau. Les baptistères sont plan centrés. Ah bah oui, on parle de mort et de résurrection aussi. Alors, voilà. Bon, il y a le carré, il y a le cercle, donc le carré est forcément centré, le cercle aussi, donc voilà. Mais ça donne un plan centré, c'est cohérent. C'est cohérent. Alors, quand les bâtiments ne sont pas centrés, ils sont donc axés plutôt, les églises sont axées, et ça nous permet ces processions qui vont du baptistère à l'Eucharistie, comme on a déjà dit. Alors on va décliner un petit peu cet axe selon les époques. Donc ici une nef romane, mais avec une belle lumière gothique. On a percé une maîtresse vitre dans le fond de l'église, qui nous dit bien quel est le but, parce qu'un axe, c'est un but. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, on marche vers la lumière. Alors on dit dans les aménagements contemporains, quand on n'a pas de grandes, belles grandes fenêtres comme ça, comme ici au Bonneau, une église, voilà. Alors on va travailler quand même l'éclairage, par exemple. On va essayer de moduler le fait, alors ici ça se voit bien, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, le chœur est quand même beaucoup plus lumineux que la nef. Alors on va employer des moyens un petit peu artificiels, mais quand on fait des projets d'aménagement dans les églises, on fait très attention parce que le lot électricité, c'est la mairie. Alors eux, ils éclairent ça comme une salle polyvalente. On faut mettre des spots, on met des spots. Alors il faut leur expliquer que non, nous, nos espaces ont un sens rituel et symbolique, et que nous marchons vers la lumière. Donc, certes, on doit voir pour lire sa feuille dans la nef, on est humain, matériel, on a un aspect fonctionnel, mais attention à l'aspect symbolique, nous marchons vers une plus grande lumière que nous. Voilà, et donc, il faut moduler l'éclairage. Vous voyez comme ça peut avoir beaucoup de conséquences. Alors, l'orientation, je suis un peu gênée parce que je ne pensais pas que vous aviez tous été en première année. C'est pour ça que j'ai repris beaucoup d'images. Ça ne vous ennuie pas si on reprend? Bon, donc l'orientation. Voilà, donc nous avons un axe, et cet axe, il est tourné vers le soleil levant. Jusqu'à une époque récente, on faisait attention à ce symbole-là, qui est très important, tourné vers le soleil levant, donc le Christ ressuscité, symbolisé par l'Est. Alors, tout de suite, une citation qui nous donne un certain degré d'interprétation, c'est le cantique de Zacharie, Benedictus, qu'on chante le matin, à la liturgie des heures. Ah, le matin, c'est le soleil levant, c'est l'Est. Et on chante « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Alors c'est la traduction de la Vulgate, vous ne reconnaissez peut-être pas. C'est l'astre d'en haut, on dit dans la traduction actuelle. Voilà, mais dans la Vulgate, c'est le soleil levant. Parce que le soleil levant, c'est le Christ pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez comment la nef est un chemin de paix. Voilà. Alors, je suis, ça c'est l'Apocalypse au chapitre 22, Jésus dit lui-même, c'est pour ça que j'ai mis mon niveau 2, parce que c'est l'explicitation la plus radicale, je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. Si vous voulez me rencontrer, tournez-vous vers l'étoile radieuse du matin. Voilà, on le fait. Et puis on nous dit aussi que c'est l'eschatologie, tu reviendras du levant. On attend le Christ qui reviendra du levant. Alors du coup, on a des très belles nefs, alors ça aussi j'ai déjà montré. À Vézelay, l'orientation, elle crée quelque chose de très intéressant. C'est que les fenêtres hautes de notre basilique accueillent le soleil qui, au solstice d'été, à midi, dessine dans la nef des taches de lumière. L'architecture a été conçue pour ça. C'est calculé. C'est chouette quand même. Alors après, attention au symbole quand même, parce qu'il y a beaucoup de bouquins. Le symbole des cathédrales, le symbole, et puis alors ça devient ésotérique. Oui. Voilà. Il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Ça peut nous nourrir toujours en relation avec des textes bibliques. Dès qu'on commence à jouer sur des choses abstraites, on n'est plus dans le symbole chrétien, qui est très incarné. Il ne faut pas que ça devienne une gymnastique complètement conceptuelle. Ça, il y a d'autres sortes de gens dans notre société qui font beaucoup ça. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans l'ésotérisme et se méfier de certains livres. Parce que comme là, aujourd'hui, je parle beaucoup de symboles, peut-être vous allez vous précipiter sur des livres, la symbolique des cathédrales. Mm-hmm. Voilà. Faites attention et ayez un regard critique. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses trap ésotériques. Voilà. Alors, ceci dit, le symbole, s'il est beaucoup manié, c'est parce qu'il est naturellement profondément humain. Donc, à Gavrinis, le couloir est orienté aussi. De manière à ce que, cette fois-ci, le solstice d'hiver, le soleil au solstice d'hiver, le soleil renaissant du lendemain du solstice, illumine la chambre mortuaire. C'est le huitième jour pour les hommes du néolithique. C'est-à-dire le matin du retour du soleil, donc du retour d'une autre vie. Voilà, c'est cette chambre-là, enfin ce couloir avec la chambre au bout. Avec des graphismes cosmiques, comme on avait tout à l'heure dans les chapiteaux de Calan. Vous voyez, les symboles sont assez universels. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est parce que du coup, ils sont immédiats. Ils sont naturels et facilement compréhensibles pour les gens. C'est pour ça que quand vous faites visiter une église et que vous parlez de symboles, tout de suite les gens sont intéressés. Parce que ça parle à tout le monde. Voilà. Alors, l'orientation, elle a des conséquences. Vous vous souvenez de ça aussi, peut-être. Parce que les calvaires sont orientés. Alors celui-ci, vous avez Marie qui est du côté est. C'est la première à accueillir le Christ quand il s'incarne. Et puis, la croix et le calvaire est de l'autre côté. C'est le même calvaire à Notre-Dame de la Housserre. Je change ma photo parce qu'il a été restauré depuis. Là, il manque un bras. Voilà, donc le Christ en croix est face à l'ouest. Parce que c'est l'eschatologie, c'est la mort qui est vaincue. Et Marie, la première qui accueille le Christ quand il vient dans le monde, elle est à l'est. Alors ça, c'est l'interprétation numéro 3. C'est-à-dire que c'est moi qui lis ça comme ça. J'ai remarqué que les chapelles Locmaria étaient souvent à l'est des bourgs. Je me dis oui, c'est chouette. Parce que quand le soleil se lève, il vient d'abord visiter Marie avant d'aller à l'église paroissiale. Voilà, c'est normal. Alors ici, c'est chez moi à Nostan, une petite chapelle Locmaria. D'ailleurs, dans les litanies de la Vierge, on dit bien étoile du matin, porte du ciel. Voilà, Marie, étoile du matin, porte du ciel. Donc c'est normal que sa chapelle soit à l'est, enfin moi je trouve. C'est peut-être pas fait exprès, mais on en trouve quand même beaucoup. À Landévent, c'est comme ça. La chapelle Locmaria est à l'est du bourg. À Belle-Île, Locmaria est au sud-est. À Groix, Locmaria est au sud-est. Voilà, ça se retrouve quand même assez systématiquement. Alors en plus, dans cette chapelle, on n'a pas prévu de sortie à cet endroit-là. On avait déjà fait la deuxième année de la formation permanente, on avait été visiter cette chapelle. Donc à l'intérieur de cette chapelle, vous avez un transept plat, comme ça, un chevet plat, avec, ici, vous voyez, ce sont les fenêtres qui sont représentées comme ça, avec ces espèces de rectangles là. Donc ici, vous voyez, c'est très sombre. Transept nord, en plus, a très peu d'ouverture, il a juste la petite lumière de l'est, petite fenêtre de l'est. Donc là, le soleil levant vient trouer les ténèbres ici. Et de part et d'autre de cette fenêtre, il y a une annonciation. Avec l'ange ici, Marie là, et l'enfant Jésus ici, au-dessus de la fenêtre. Alors on pourrait faire tout un cours sur les annonciations. Parce que les annonciations sont très souvent représentées de part et d'autre d'une porte, ou d'une fenêtre, ou d'un arc, ou dans un porche. À chaque fois, il y a une ouverture. Et là, vraiment, vous voyez, le soleil levant qui entre dans le monde, eh bien, c'est Jésus. Alors, certains interprètes vont même jusqu'à dire c'est un symbole de la virginité de Marie. Parce que la lumière pénètre à l'intérieur sans briser la vitre. Image de la virginité de Marie. En tout cas, si le peintre voulait tranquillement représenter son annonciation, il aurait pris un pan de mur. Il y en avait plein d'autres, des pans de mur. Non, il l'a placé là. Parce que l'architecture, dans son orientation, a un sens Et il a installé sa peinture dans ce sens-là. Voilà. Alors d'ailleurs, la suite est très intéressante. Enfin, l'annonciation que je viens de vous montrer, elle est là. Mais il y a tout un programme. Je vous montre parce qu'à Kermaskleden, on va retrouver ça. Vous avez la mort, ici, sous la forme du dit des trois morts et des trois vifs, qui est représenté sur les murs. Donc c'est trois squelettes. Enfin, c'est trois jeunes hommes qui ne sont plus apparents parce que la fresque est très, très abîmée. Mais il devait y avoir trois jeunes hommes, parce qu'ici, il y a une croix. Donc on sait par comparaison que c'est le dit des trois morts et des trois vifs. Donc il y avait trois chevaliers. Du côté nord, donc c'est l'incroyance, le paganisme, c'est ceux qui ne croient en rien. Et ici, dans l'angle, il y a une croix qui est dessinée sur le mur. Et c'est l'histoire, c'est une histoire littéraire qui avait cours au XIIIe siècle. Et donc ces trois jeunes fringants chevaliers qui se croient immortels, parce que quand on est jeune, on se croit immortel, ils rencontrent à un carrefour trois squelettes qui leur disent « Ah, mais vous serez comme nous dans quelques années, etc. » Donc c'est le symbole de la mort dont l'homme souffre. On voudrait bien être libéré de la mort et du péché. Et bien, la libération, elle arrive ici, grâce à cette petite fenêtre de l'Est. Donc ça, c'est le passé, si vous voulez. Jésus s'est incarné, il nous a sauvés. Le présent, hein, tout ça, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit passé, présent, futur, tu étais mort, tu es vivant, tu reviendras. Donc ici, le passé, tu étais mort, mais tu es... Voilà, mais Jésus est venu te chercher. Aujourd'hui, tu célèbres l'Eucharistie, donc il y a des scènes de la Passion au-dessus de l'autel, et une Vierge à l'enfant, donc le corps de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Donc là, c'est aujourd'hui, je célèbre. Et puis, dans le transept sud, qui est très éclairé par deux grandes fenêtres, on a des scènes de paradis. Donc le passé, le présent, le futur. Et alors, les scènes de paradis, avec des mains, et puis ici, pour vous dire que c'est vraiment une histoire continue, qui a une logique d'architecture, c'est que là, à l'entrée du transept nord, il y a un Saint-Christophe. Saint-Christophe, c'est le passeur de guet. C'est celui qui vous fait faire le passage. C'est comme dans la mythologie grecque, là, je ne sais plus quelle... Cérès, avec son bateau, sa barque, non, c'est pas celui-là, qui faisait traverser le Styx, là, les eaux de la mort. Ben maintenant, c'est Saint-Christophe qui est là, qui vous fait entrer au paradis. Et donc, vous avez toute une logique, vous voyez, de tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption et de tout le mystère du salut qui est représenté ici. Et à Kermaskleden, on aura la même chose en plus développé. Mais ce sera le même schéma. Voilà, alors donc on a toute une géographie sacrée que je viens déjà de vous énumérer un petit peu, puisque l'Est c'est la vie, l'eschatologie, le monde futur. On va décliner des sens aux autres points cardinaux. Donc ici c'est l'église de Mélan, une église du 15e avec la nef, il y a une belle fenêtre d'axe. Voilà, et puis du coup le baptistère va se situer à cet endroit-là, au nord-ouest, parce que le nord... C'est l'incroyance et le paganisme, comme nos trois chevaliers, là, qui ne croient en rien et qui se croient... Voilà. Et l'ouest, c'est la mort par opposition à la vie qui est à l'est. Et donc, quand je suis baptisé, je sors des ténèbres, de l'incroyance, du paganisme. Je meurs et je ressuscite pour aller vers la vie éternelle quand je remonte la nef. Donc, le baptistère est traditionnellement au nord-ouest de l'église. Voilà. Quand on est baptisé, par contre, on passe par le sud. On a déjà revêtu la lumière. On n'a plus besoin de repasser par la porte de l'ouest. Hein, donc on a un petit porche sud, mais le porche, il a aussi un rôle fonctionnel, pratique, c'est quand même plus agréable, surtout dans nos contrées, de passer par le sud, ou de sortir par le petit porche du sud où il fait beau. Voilà. Alors ici, Bernay, église Saint-Brévin, c'est la même chose, le baptistère est au nord-ouest. Et en face, alors le voilà, alors en plus, le baptistère, il a une poutre ici, très très basse. Alors le prêtre nous a appelé un jour à la commission sacrée, veut dire, on voudrait enlever cette poutre là, c'est quand même pas pratique. Alors nous, on lui dit, ben regardez, il y a un beau soleil. Vous voyez la décoration qu'il y a au-dessus, c'est la lumière, c'est intéressant comme poutre, elle n'est pas si anecdotique que ça. Et puis, vous vous baissez pour rentrer. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, et puis ça fait un espace petit, clos, vous voyez, le ventre maternel, et puis il faut se baisser comme Jésus qui est descendu. Hein, bon, après, on peut ne pas être sensible à ce genre de langage. Et puis trouver que décidément, cette porte, eh ben, vous vous tapez dedans quand vous rentrez. Bon, c'est dommage. Vous voyez, mais bon, voilà. On essaye toujours de sauver le symbole. Alors, en face du baptistère, il y a un ossuaire. Voilà, parce que les morts, ils sont déjà dans la lumière de la vie. Ils voient déjà la lumière de Dieu, mais ils sont la mort, donc à l'ouest. Voilà, donc ça, c'est l'ossuaire de Bernay. Il a cette forme-là. À Lanvénégin, c'est pareil. On a le baptistère ici au nord-ouest, l'ossuaire en face. Ça, c'est l'ossuaire de la chapelle Saint-Guen de Saint-Hugues-du-Halle, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est là où on rangeait les crânes une fois que le cimetière était plein. C'est toujours comme ça en Autriche. Alors, à Bernay, qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, le soir de la veillée pascale, c'est intéressant, parce que si vous faites vraiment la procession du cierge pascal à la veillée, vous avez fait le feu à l'extérieur, vous rentrez par la porte de l'ouest, pour le coup, dans l'axe, hein, vous plongez le cierge pascal au baptistère, parce que dans le rituel, on doit faire ça, la veillée pascale, pour purifier les eaux du baptême, comme le Christ est descendu au Jourdain. Alors, on va plonger le cierge pascal dans les eaux du baptême, on va réveiller les morts qui sont là, ça y est, il est ressuscité. Vous pouvez ressusciter avec lui, et on va aller vers la vie éternelle. On va remonter derrière le Christ jusque à l'autel. Vous voyez le sens que le rituel donne à l'architecture, et que l'architecture permet de donner au rituel aussi. Voilà. Alors, dans les architectures 17e, on va avoir le baptistère s'est déplacé un petit peu, mais il n'est plus tout à fait au fond, mais il est en face du porche d'entrée, du porche de sud, qui nous dit autre chose. Hein, on rentre habituellement par ce porche-là. Et comme on est baptisé, on se souvient de son baptême. C'est un peu l'idée du baptistère en centre nef. Vous voyez, mais dit un petit peu autrement. Architecture 17e, on a fait comme ça. Voilà, baptistère. Alors les porches, c'est intéressant les porches, mais je ne vais peut-être pas en dire trop. Je vais avancer. Les porches, c'est intéressant. Les porches, ils sont beaucoup développés à l'époque gothique. Alors ici, c'est le très beau porche de Sainte-Noyale à Noyal-Pontivy. Celui-là, c'est celui de la chapelle Saint-Fiacre au Faouette. Alors intéressant parce que vous voyez, il est sur le côté. Alors là, il y a le parking, avec tous les touristes là, ici. Alors évidemment, la dame de la mairie qui accueille, elle a ouvert cette porte-là, parce que c'est comme ça, on voit que c'est ouvert, puis les touristes s'engouffrent. Du coup, plus personne ne fait le détour pour passer par le porche sud. Ben, c'est dommage, parce qu'ils ne font pas l'itinéraire qu'il faut. Il faut faire le détour, comme Moïse devant le buisson ardent. On n'entre pas comme ça, hein, on se convertit d'abord. On fait un petit tour, et puis on passe par ce porche sud, parce que dans ce porche sud... Il y a 12 niches. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les 12 niches? Les 12 apôtres. Et puis, il y a un bénitier. Ah, ben, je vais me souvenir de mon baptême dans ce porche-là. Celui-là, c'est celui de l'Armor-Plage. Chaque apôtre porte un phylactère, c'est une phrase du credo, un credo apostolique. Je suis baptisé parce que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. On vous interroge dans la liturgie du baptême. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en son Fils Jésus-Christ, etc. Donc là, vous avez le credo. Le credo, donc le porche est baptismal. Un autre porche à Noyal-Pontivy, baptismal aussi, très intéressant. À l'intérieur, un beau bénitier, les apôtres tout autour, et au début de la série des apôtres, on a un baptême du Seigneur. Très complet comme programme iconographique, ça. Vous avez donc Jésus, curieusement à genoux sur une petite pierre, là, c'est rigolo. Saint-Jean-Baptiste, alors on pourrait parcourir le département du Morbihan, alors je ne connais que ça, donc je parle de ça, mais regardez les peaux de bêtes dont est habillé Jean-Baptiste. Il était vêtu d'une peau de bête. Ah bon, mais laquelle? Alors ici, regardez, c'est une espèce d'âne. Alors, je pourrais vous montrer, j'ai une collection de photos de Jean-Baptiste. Il y a même une chapelle, où c'est un cochon. Il y a une peau de cochon. Enfin, c'est très, très amusant. Enfin, bon, bref, je passe. Donc, il y a un ange, donc ça, c'est la manière 15e de représenter le baptême du Christ. Comme sur l'icône que je vous ai montré au début. C'est un ange qui porte les vêtements de Jésus. Voilà, donc le baptême du Christ, ensuite les 12 apôtres et le bénitier. On est bien dans un ensemble baptismal. Voilà, le porche qui nous rappelle notre baptême avant de rentrer dans l'église. Voilà, encore une autre image. Très jolie ce porche-là. Alors, dans le cœur, qu'est-ce qu'on va trouver dans le cœur? Le cœur, on a déjà dit que c'était la tête. Donc, il y a l'autel, qui est le Christ lui-même. Voilà. Alors, un parcours très rapide. À l'époque paléo-chrétienne, vous voyez que le principal du décor va être dans l'abside, au-dessus de l'autel, avec ici une transfiguration. Enfin, une transfiguration à laquelle assiste saint Apollinaire et ses 12 brebis, donc tout le peuple de Dieu rassemblé là, assiste à la manifestation du Christ, vrai Dieu et vrai homme, sous la forme de la transfiguration. Ici, c'est Moïse et Élie, et puis donc les 3 brebis ici, Pierre, Jacques et Jean. Bon, ensuite, à l'époque gothique, on a notre fameuse maîtresse vitre, qui dit aussi quelque chose du cœur, en pleine lumière, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, la maîtresse vitre de Lanvénégin, aussi très très belle. Celle du Faouette qui porte des scènes de la Passion, parce que ce qui s'est célébré à l'autel en dessous, c'est le mémorial de la Passion. Donc cette vitre-là est comme un retable. Le retable, c'est ce qui est posé sur l'autel et qui dit le mystère qui est célébré à cet endroit-là. Ça, c'est la période baroque. Après le Concile de Trente, on a tout focalisé sur le tabernacle, qui devient le point focal. Je refais un petit parcours rapide. Et donc, on développe autour des retables qui vont aussi nous parler du corps du Christ, puisque ça devient le cœur de la querelle avec les protestants, pour qui les espèces eucharistiques ne restent pas le corps du Christ après la messe. Donc le tabernacle devient le point focal, il ne l'était pas avant, hein, donc ça date du XVIIe, fin XVIe, début XVIIe. Voilà. Et donc ici, Pontivy, ça aussi j'avais montré, il me semble. Vous vous souvenez de tout ça ? Non ? Bon, alors c'est bien. Si vous n'en souvenez pas, c'est bien. Comme ça. Voilà. Alors vous voyez, ici, au-dessus du tabernacle, on a aussi tout un programme iconographique extrêmement symbolique qui va développer le sens du mystère. Alors ici, c'est Jésus incarné, vrai Dieu, vrai homme. Alors, vrai homme, parce qu'à l'horizontale, il a sa grand-mère, son grand-père, sa mère, son père terrestre, la famille humaine à l'horizontale, et la famille divine. Lui, il est à l'intersection, évidemment, Dieu le Père et la colombe de l'Esprit-Saint. Donc là, on nous dit bien, le corps de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, c'est le même corps qui est présent ici, au tabernacle, et qu'on expose dans l'ostensoir qui est là, et qu'on adore. Un autre retable très beau, c'est Breck, la chapelle Saint-Quirin de Breck, où cette fois-ci, vous avez dans le tableau central une nativité. Mais c'est toujours l'idée de corps de Jésus. Et voyez comment le corps de Jésus est souligné par ce petit linge blanc, cette grande lumière. Et donc c'est vraiment le corps de Jésus qui nous intéresse, tout petit dans la crèche, et qui est donné dans son humilité, donné aussi sous la forme des espèces eucharistiques, qui est conservé dans le tabernacle, avec ici la monstrance pour mettre l'ostensoir. Alors à l'époque contemporaine, c'est un peu plus, je sais pas, on doit être trop intellectuel maintenant. C'est un petit peu plus sec. Vous voyez ce que je veux dire, enfin. Voilà. Alors quand même la PGMR dont a parlé Emmanuel Auvray dans le cours 3, hein, donc la présentation générale du missel romain qui nous dit comment célébrer et pourquoi. Il convient que dans toutes les églises il y ait un autel fixe qui signifie de manière claire et permanente le Christ Jésus, pierre vivante. Ah, l'autel signifie de manière claire et permanente. On lui donnera donc l'emplacement qui en fera le centre où convergera spontanément l'attention de toute l'assemblée des fidèles. Il est fixe parce qu'il représente le Christ. Alors là, on se bat beaucoup parce qu'il y a des... Monseigneur est allé inaugurer un jour un hôtel à roulettes. J'étais très surpris, il ne savait pas qu'il y avait des roulettes. Non, l'hôtel doit être fixe parce qu'il représente le Christ. Voilà, c'est bien dit dans la PGMR. Donc vous voyez que ça a des conséquences pratiques. Alors, on va justement aménager cet espace liturgique avec un mobilier, selon les consignes du concile qui nous intéresse maintenant. Hein, la forme, voilà. Donc la PGMR, à nouveau, nous dit « Lors de la célébration de la messe où se perpétue le sacrifice de la croix, le Christ se rend réellement présent. Dans l'assemblée, elle-même réunie en son nom, donc la nef, on en a déjà bien parlé, dans la personne du ministre, qu'on va lui mettre un siège qui représente la place du Christ. » Donc ça n'est pas juste un fauteuil parce qu'il a besoin de s'asseoir parce qu'il est fatigué. Non, vous voyez, c'est le siège qui symbolise la présence du Christ au milieu de son peuple qui préside. Et puis l'embout, c'est la parole, on en a parlé tout à l'heure, et l'autel, évidemment, qui porte les espèces eucharistiques. Voilà, donc l'embout, l'autel et le siège vont être les trois meubles qu'on va essayer de situer dans les aménagements contemporains, de situer dans le cœur, pour signifier trois modes de la présence du Christ. Bon, le concile ne nous dit pas qu'il faut mettre l'embon ici. On nous parle de l'autel. L'embon, on pourrait peut-être lui chercher quelquefois des places qui lui donnent plus de dignité, parce que quelquefois, ça ressemble quand même un peu à un pupitre. Vous voyez ça, bon, par rapport au premier embon que je vous ai montré, vous voyez comment... Voilà. Alors, on cherche toujours. Hein. En tout cas, dans les aménagements, on va placer l'autel, l'embon, le siège, voilà, une croix, pour dire le mystère célébré. Voilà. Et le cierge pascal à l'embon. Voilà, alors peut-être s'il me reste un petit peu de temps, ou pas beaucoup, un petit mot sur les vitraux. Un petit mot sur les vitraux, il y en a quand même dans beaucoup d'églises. Alors quelques repères. Les vitraux, alors les vitraux, quand on dit vitraux, vitrail, quand un comité de chapelle veut créer des vitraux dans sa chapelle, la référence qu'ils ont, c'est en fait le Moyen-Âge. C'est-à-dire des vitraux colorés qui racontent quelque chose. Pour nous, un vitrail d'église, c'est ça. Alors effectivement, la grande époque du vitrail, c'est l'abbé Sugère à Saint-Denis, à partir du XIe siècle, parce que l'abbé Sugère développe une théologie du vitrail. Pour lui, la lumière qui traverse la surface colorée, c'est la lumière divine qui vient éclairer notre intelligence. Et donc, en traversant les petites images et les vignettes, cette lumière imprime par nos yeux, dans notre esprit, la parole de Dieu qui est représentée sur le vitrail. Voilà, ça, c'est l'idée qui sous-tend le développement des vitraux à la période gothique, donc inaugurée à Saint-Denis par l'abbé Sugère. Alors, pour lui aussi, rien n'est trop beau pour Dieu. Plus il y a de couleurs, plus ça ressemblera à la Jérusalem céleste. Parce que la Jérusalem céleste, vous voyez, dans l'Apocalypse, on décrit qu'elle est faite de pierres précieuses. Et donc, toutes ces vitres colorées, ça représente aussi la Jérusalem céleste. Et donc, l'architecture aussi va favoriser, évidemment, les grandes surfaces vitrées, comme ça. Donc, on invente les arcs-boutants, ça permet de libérer les murs. Et donc, on peut développer cette grande théologie du vitrail. Alors, elle est vraiment quelquefois symbolique, au sens restreint du terme. C'est-à-dire que, quelquefois, dans les rosaces tout en haut, ici, il y a des figures que personne ne voit en réalité. Donc on dit c'est un catéchisme pour les pauvres, mais c'est plus théologique que ça, en fait, parce que vous n'avez pas besoin de lire, ça s'imprime quand même dans votre esprit, symboliquement. Vous voyez ? Alors, très souvent, on va avoir quand même des figures aussi des saints. Alors ici, c'est une fenêtre gothique à Baignon, une très belle fenêtre de Michel Bayonne qui raconte des scènes de la vie de Saint-Pierre, puisque l'église est dédicacée à Saint-Pierre. Je vous montre un détail, voilà, un très beau... très beau vitrail. Voilà, donc on va aussi représenter soit des scènes de la vie du Christ, évidemment, qui doivent s'imprimer en nous, soit des vies de saints. Alors, à ce propos-là, il y a des mots d'enfants. Les mots d'enfants sont souvent très, très chargés de symboles et très riches d'un langage symbolique. On raconte la petite histoire d'un enfant qui visite une église avec sa grand-mère et il dit « Oh, mamie, regarde !» Les saints, c'est ceux qui ont laissé, c'est ceux qui rayonnent de l'amour de Dieu, voilà, qui laissent passer la lumière de Dieu. C'est ça, donc on représente les saints dans les vitraux, et c'est tout à fait ça. Alors, période gothique, il y a une éclipse du vitrail. Quand on a une belle chapelle avec un beau retable comme ça, on ne met surtout pas de vitraux colorés. Parce qu'à cette époque-là, la fenêtre, vous voyez, elle n'a plus la même forme. D'ailleurs, elle est chargée d'illuminer le retable, qui est vraiment le point focal de l'église. Donc la fenêtre ici est simplement une fenêtre qui apporte de la lumière et qui fait baigner tout l'espace de la liturgie d'une belle lumière céleste, blanche, blanche. Parce que tout est dit dans le retable. Voilà. Alors au XXe siècle, on va retourner à des vitraux colorés parce que ça reste pour nous quand même le modèle du vitrail. Donc ici, en plus, c'est une baie gothique, donc il n'y a pas de problème. C'est à Merlevenez, la fameuse baie que je vous montrais au bout de la nef avec la belle lumière. La voilà. Comme c'est Notre-Dame de Joie, ce sont des scènes de la vie de la Vierge. Ici, c'est à Hennebon, Saint-Gilles. Voilà, donc on représente beaucoup les saints dans les vitraux. Alors les saints, parce que les églises ont une dédicace, évidemment. Alors les dédicaces, c'est très intéressant. On peut aussi faire toute une symbolique de la toponymie. C'est très intéressant, ça. Parce que une dédicace, elle peut être liée à une histoire. Hein, on est histoire, là, on est matériel. Ça, la chapelle Saint-Gilda, ermitage où Saint-Gilda a vraiment vécu. Avec son disciple Biesy. Donc la commune s'appelle Biesy-les-Eaux. Ça marque une géographie parce que c'est une histoire de l'évangélisation. Alors ici, c'est une représentation de l'ermitage que vous avez là. Il est représenté là, dans une autre chapelle, la chapelle Sainte-Tréfine de Pontivy. Vous avez des scènes de la vie de Sainte-Tréfine qui rencontre Saint-Gilda. Enfin, je ne vous raconte pas l'histoire, mais là, c'est intéressant parce que vous avez une représentation 17e de l'ermitage qui est là, avec le blavet qui coule au pied et le gros rocher au-dessus. Voilà. Sainte Noyale aussi, qui a vécu chez nous et qui a marché en portant sa tête. Vous avez plusieurs chapelles qui ont des figures de la fameuse Noyale, vous voyez, qui voyage, qui pèlerine tout le sens de son chemin. On peut aussi avoir une lecture symbolique de la vie. Vous voyez, notre vie a du sens. Tel événement qui m'arrive, ah ben je cherche le sens. Voilà. Alors Sainte Noyale, elle a parcouru en portant sa tête des kilomètres. Elle a évangélisé comme ça, par son sang donné. Voilà. Alors on a des situations géographiques particulières, en haut des collines, on va avoir des chapelles dédiées à, en haut de la colline, sur le mont Saint-Michel, Saint-Michel qui fait le passage vers le ciel, Saint-Michel de Braspar, Saint-Michel de Carnac. Bon, Locmaria, j'en ai déjà parlé, les lieux dits à Marie, à l'extérieur des bourgs, alors ça c'est très pratique, j'ai mis le rond numéro 2, hein, très pratique, à l'extérieur des bourgs, on a peur. C'est là qu'on met les quartiers des lépreux ou des gens qui ont des professions indignes, les tanneurs, tous les gens qui touchent la mort. Tous ces gens-là, hop, ils ont leur quartier réservé à l'extérieur du bourg. Et on leur construit une chapelle, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la sainte pécheresse. Et aussi parce que, pour soigner les malades, c'était les maladreries dédiées à Marie-Madeleine. Donc, à l'extérieur du bourg, on a beaucoup de chapelles dédiées à Madeleine. Si vous cherchez dans le département ou dans le diocèse, les chapelles dédiées à Sainte Marie-Madeleine, vous verrez, c'est toujours loin du bourg. Voilà. Parce qu'il y avait un lien entre la dédicace et l'usage. Donc ça, c'est à Merlevenez. Bon, maintenant, l'urbanisme a un peu grignoté, donc elle n'est plus tellement à l'extérieur du bourg, mais elle l'était à l'origine. Alors après, la dédicace, évidemment, elle va avoir plein de conséquences dans le décor. Le saint patron, ici, Saint Nicodème, forcément, il est à l'honneur. Alors, la place d'honneur dans le retable, c'est soit tout en haut, soit à droite. Parce que si vous mettez le Christ représenté au milieu, la place d'honneur, c'est à ma droite. Donc, on mettra le saint principal ici. Bon, là, il est au-dessus. Très bien, Saint Nicodème. Mais du coup, le tableau est en relation aussi avec la dédicace. Parce que Saint Nicodème, vous voyez, il a une tenaille, des clous. C'est lui qui a participé à la descente de la croix. Et donc, voilà le beau tableau avec Saint Nicodème qui descend Jésus. Très beau. Bon, Saint-Pierre et Saint-Paul, une église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors forcément, la bingo à tous les coups. Hein. Saint-Pierre, Saint-Paul, hop. Voilà, toutes les églises dédiées à Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors pour terminer, je vais vous faire juste un tout petit passage à partir de Sainte-Anne, pour vous montrer aussi comment on peut lire une statue. Parce que ça intéresse aussi les enfants. Oui. Alors, on procède toujours par comparaison, parce que la statue, celle-là, elle est unique. Vous voyez, là, c'est une femme qui tient un livre. Bon, il y a beaucoup de saintes qui sont représentées tenant un livre. J'aurais pu vous montrer une photo de Sainte Avoie. Elle tient un livre, la seule différence, c'est qu'elle a une couronne. Donc, c'est pas Sainte Anne. Mais par comparaison, vous allez voir cette histoire du livre dans les mains de Sainte Anne. Alors ici, Sainte Anne est représentée seule, c'est à Kermaskleden, où nous irons la prochaine fois. Une Sainte Anne au livre, voilà. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vous la montre de face. Voilà, elle tient son livre. Elle tient son livre comme dans le retable de Pontivy, que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est un détail. Voilà. Elle tient son livre parce que c'est la femme de l'Ancien Testament qui espère l'accomplissement de la promesse. La promesse, la venue d'un Messie. Un Messie qui sera de notre peuple et qui viendra donc d'une femme juive. Donc toute femme juive espère être la mère du Messie. Et donc Sainte Anne, elle scrute les Écritures. Alors, ça me fait penser, par exemple, à la lettre aux Romains au chapitre 15. Tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Donc écrit, donc lu. Hein. C'est écrit, donc il faut le lire. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. On va se dire, ah bah oui, Sainte Anne au livre comme ça, c'est aussi la figure de l'espérance, celle qui espère la venue du Messie. D'accord. Alors après, en bonne femme juive, le livre, elle va le donner à sa fille, elle va lui apprendre à espérer aussi et à attendre le Messie. Et donc, on va avoir toutes nos Sainte Anne éducatrices. Voilà. Et alors ici, ça nous fait penser à cette grande prière juive du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison et en voyage. C'est ce que les petits-enfants juifs apprennent de la bouche de leurs parents. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Et voilà Sainte Anne qui apprend à Marie à lire la Bible. Alors c'est sans doute pas un abécédaire, hein. Ici, voilà, le restaurateur, elle lui a appris à lire, peut-être, mais enfin, c'était peut-être pas seulement ABC. Alors, les figures, vous connaissez sans doute beaucoup de Sainte Anne au livre, comme ça. La figure de la Sainte Anne éducatrice, c'est un deuxième type de Sainte Anne. Vous voyez, le livre est passé des mains de Sainte Anne, elle le donne à sa fille, et on a eu beaucoup cette iconographie-là au XVIIe siècle, à partir du XVIIe, parce qu'on s'est préoccupé à ce moment-là d'éducation des filles. Et donc Sainte Anne est devenue la sainte patronne des institutrices. Alors voilà, Sainte Anne éducatrice. Alors cette autre statue, ces statues-là sont dans les collections de Sainte Anne d'Auray. Voilà, c'est pour ça que ça fait un petit corpus assez intéressant. Donc ce livre que Sainte Anne a donné à sa fille, vous voyez ici le livre, il est fermé sous le bras de Sainte Anne, parce que toute la parole... La petite fille l'a reçu. Alors, je crois que j'ai mis un détail. Vous voyez, Marie a reçu le message et elle le garde dans son cœur. Regardez ce geste. Vous voyez, c'est très beau. Elle a transmis, elle peut fermer, parce que dorénavant, la parole vit ici.
C'est beau, ça. Alors, un petit, des annonciations pour vous montrer la comparaison du geste de Marie. Vous voyez, ici, Marie à l'annonciation. Ah, elle est en train de lire un livre. Intéressant. Et elle a ce geste de la main. Elle tient sur son cœur, elle accepte, elle accueille dans son cœur la parole de l'ange, comme elle a médité la parole qu'elle a reçue en elle. Elle a accueilli la parole avant que la parole ne se fasse vraiment chair en elle. Alors, il y a tout ça qui est dit dans cette statue. Alors, l'Ancien Testament peut se fermer dorénavant dans la main d'Anne, car le Verbe se fait chair dans le Nouveau Testament. Voilà, alors c'est toute l'idée qu'on va retrouver dans les Saintes Anne dites trinitaires, quand cette fois-ci vous avez Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus. Et regardez ici, le livre est fermé, parce que l'Ancien Testament est terminé. Sainte Anne fait la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'autre, dans une main, elle a un livre, le livre fermé, la promesse accomplie. Et voyez la charnière, Ancien Testament, Nouveau Testament, la Vierge et l'enfant Jésus. Alors ici aussi, une autre déclinaison des livres. Regardez, si vous regardez les livres, un est fermé, l'autre est ouvert dans les bras de l'enfant. Parce que c'est lui, le Verbe, c'est lui, la parole de Dieu, qui accomplit ce qui était dans ce livre-là. Alors, Luc 24, 27, c'est les disciples d'Emmaüs. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans ce livre-là, c'est lui qui est annoncé. Donc ce livre-là peut se fermer, puisque maintenant c'est lui, la parole. Voilà. Alors encore une autre Sainte Anne trinitaire. Bon, elles sont un petit peu abîmées, ces sculptures, elles mériteraient une restauration. Celle-là, elle appartient au diocèse de Quimper. Vous voyez, elle est intéressante, parce que là, l'enfant Jésus est nu, dans le sein de Marie, et on a le livre ouvert dans les bras de Sainte Anne. Alors ça dit encore autre chose, cette fois-ci. Le livre ouvert qui est mis en parallèle avec le corps de Jésus. Vous voyez, à la messe, on a la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Le pain de la parole et le pain eucharistique. Et on a un petit peu ça là, la parole et le corps. Alors, on en a une autre. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. On peut penser à ça aussi. Le Verbe et la chair. Voilà. Voilà, petit détail. Et alors, je termine avec celle-là, qui est particulièrement intéressante, parce que vous voyez, j'ai pas souligné, mais dans les premières Sainte Anne que j'ai montrées, Sainte Anne a déjà ce geste de mettre des doigts entre les pages du livre, parce que c'est un livre qu'elle a médité. Tout à fait au début, je vous disais, la parole, dans la Lectio Divina, on la mange, elle s'incarne en nous parce qu'à force de la méditer. Vous voyez, c'est ce que Sainte Anne a cherché à faire. Et donc, elle a la main dans une certaine page du livre. C'est un livre qu'elle connaît. Oui, mais l'enfant d'autorité, il ouvre une autre page. Alors là, on pourrait dire, attention, il va déchirer les pages, ne le laissez pas jouer avec les livres. Hein, voilà, on pourrait avoir cette réaction-là. Oui, mais lui, il sait ce qui est dans ce livre. Alors regardez, les bouches des deux femmes, donc Marie et Sainte Anne, sont fermées. C'est lui, la parole. Il parle et il explique ce qui le concerne dans les Écritures. Alors je crois que j'ai mis des détails comme ça. C'est un diaporama que j'avais fait pour un autre groupe, alors j'avais fait quelque chose un peu plus méditatif comme ça. Anne tient le livre qu'elle feuilletait sur ses genoux, ayant réservé entre ses doigts une page aimée. Mais c'est l'enfant de chair, petit corps potelé, qui connaît lui ce que contient le livre. Il le révèle, il l'accomplit. C'est pourquoi en entrant dans ce monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire au Dieu ta volonté. Alors vous voyez qu'avec ces différents niveaux de lecture, selon les groupes que vous recevez, si vous faites visiter quelque chose, alors vous allez aller plus ou moins loin dans la lecture spirituelle et dans les citations. Voilà. Lui seul ouvre la bouche. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et tout ça est dans cette statue, une très belle Sainte Anne Mozane de 1500. Alors en plus, il y a un trône, enfin quand on va derrière, voilà, c'est une très belle pièce de la collection de Sainte Anne Doré. Alors ici, on a autre chose, vous voyez, les trois mains sur le livre, trois manières de peut-être de lire la parole ou de l'incarner. Ici, vous avez un parallélisme de femmes assises, et puis il y a un livre ouvert. Voilà, on a déjà vu un petit peu ce parallèle. Oui. Voilà, l'une porte un livre ouvert, l'autre au même niveau, pour en souligner le rapprochement à un enfant. Bon, c'est l'idée qu'on avait tout à l'heure, la parole et la chair. Voilà. Ou l'ancienne et la nouvelle alliance. On peut voir ça aussi comme ça, dans cet aspect un peu hiératique. Voilà. Alors, pour finir complètement, j'avais pensé comme ça, le poème de Charles Baudelaire. Je trouvais rigolo de le mettre là. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec ce qu'on a essayé de dire. Vous voyez qu'il y a une forêt de symboles, mais ça crée des correspondances et puis ça donne du sens. Et on se promène et on capte, et on capte et on incarne. Voilà. Je crois que c'est fini, oui. Après, il y a une petite sélection bibliographique, mais c'est la même que j'avais donnée à l'année 1. Voilà, si vous voulez retrouver un petit peu toutes ces lectures symboliques des églises, il y a le livre du père Markiewicz, Les pierres vivantes, qui est assez mystique. Donc ce serait le niveau 3, complètement le niveau 3. Louis Bouillet, architecture et liturgie, lui, il est très historique, il analyse l'aménagement des églises paléo-chrétiennes. Lui, église et symbole, c'est comme un dictionnaire. Donc c'est pas mal, c'est un petit peu ce qu'on a fait en deuxième partie. Visiter une église, voilà, là c'est organisé vraiment pour une visite. Il est assez grand public celui-là, Monseigneur Jacques Perrier. Enfin, il date 2003, des livres un peu plus anciens. Une référence en termes d'iconographie, c'est Grabart. Alors lui, il explique comment l'iconographie... Là, ce n'est pas tellement ce que j'ai traité ici. L'iconographie, c'est comment est-ce que les chrétiens ont créé leur symbole à partir du contexte culturel dans lequel ils vivaient déjà. Et comment ils les ont christianisés. Bon, ici, les symboles, c'est tous les symboles romans. C'est le livre de la collection Zodiac. Donc les symboles romans qui sont très très riches. C'est une époque très, très férue de symboles. Dieu et ses images, alors ça c'est une histoire de la représentation de Dieu. Ça c'est très, très universitaire. Et alors ceux-là, ils sont un peu plus polémiques, ils sont plus récents, ils sont plus polémiques. Le corps des images, c'est un recueil d'articles sur la naissance de la statuaire. Bon, ça j'en ai pas tellement parlé non plus, mais cette fois-ci j'en ai plus parlé dans le cours 1 de l'année 1. Et puis, Olivier Rey, Gloire et misère de l'image après Jésus-Christ. Alors lui, c'est un philosophe contemporain qui s'exprime pas mal en ce moment sur différents sujets. Vous voyez, c'est un livre de 2020, donc celui-là est plus récent. Où là, justement, il explique qu'on croit être aujourd'hui dans une société de l'image, et en fait, pas du tout, parce qu'on a perdu le sens symbolique. Voilà, en gros, si je vous résume. Et donc, il refait tout le parcours de l'histoire des images en christianisme pour montrer, justement, comment les images avaient un corps. Comment les images étaient un corps et favorisaient le lien de l'esprit et du corps, et qu'on a un petit peu perdu ça aujourd'hui. Voilà.
Merci.
Donc, vous voyez, je suis assez critique sur notre époque, parce que comme je m'intéresse beaucoup aux symboles et que j'analyse les églises anciennes, forcément je vois des symboles et du coup je vois la pauvreté dans nos églises contemporaines, mais c'est à la fois une invitation à lire, grâce à nos églises anciennes, parce qu'on a quand même beaucoup, toute la richesse catéchétique de ces symboles, et en même temps de nous dire, mais même avec des moyens simples, dans des églises plus contemporaines, on peut quand même faire vivre une richesse symbolique, mais à nous de l'écrire aussi, cette richesse symbolique. Vous voyez, c'est assez libre comme monde, quand même. Il y a des choses qui se retrouvent, parce qu'on ne va pas inventer non plus sans arrêt des choses nouvelles, mais c'est créatif. Voilà. Très bien. J'espère qu'il vous reste un peu de lucidité pour rentrer chez vous. Et puis donc on vous enverra les aspects techniques de la réunion du.
Et le diaporama.
Alors, vous voulez que je vous le mette en ligne?
Oui.
Il faut que je réécrive un peu les textes. On va pas, je ne vais pas le mettre tout de suite alors.